With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il nous faudrait un plus gros bateau.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous?
Oui, ça va et toi?
Ouais, ça boum.
Ça boum.
C'est nouveau. Entre vous deux se tient notre invité du jour, Joe Hume.
Comment
vas-tu?
Bah, ça va très très bien, merci de me recevoir.
Bah écoute, ça nous fait plaisir.
Bah, je suis très content d'être là.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Je m'appelle Joe Hume, je suis... Qu'est-ce que je fais? J'anime une émission quotidienne sur la pop culture sur MCM. Et puis voilà, j'écris des petits trucs, je suis semi-journaliste culture. Voilà.
Ah, mais des photos aussi surtout.
Ah oui,
je fais de la photo de jouets.
Je suis photographe semi-pro de jouets.
Ah oui, c'est pas un détail.
Voilà, donc.
Est-ce que tu peux nous donner le nom du compte Insta?
Ce compte Instagram-là, il s'appelle French Toy Love, avec des underscores entre chaque petit mot, la French underscore toy.
Pour que ce soit bien compliqué à retrouver.
Love, voilà. Non, mais si tu tapes French Toy Love sur Google, tu tombes sur, c'est le premier lien. Joli référencement. En même temps, avec un nom à la con comme ça, t'es sûr qu'il n'y a pas non plus en trouver mille. Et voilà, il y a des plusieurs centaines maintenant de photos de jouets. J'en poste assez régulièrement. J'essaye de faire une fois par jour.
Il est très fort.
On partage cet amour des jouets. Hein,
vraiment, il est très fort.
Ah, c'est beau.
Mais quel bonheur, les jouets.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Considéré comme le tout premier blockbuster de l'histoire, Les Dents de la Mer est sorti aux États-Unis en juin 1975, à une époque où l'été était une période traditionnellement réservée aux nanars. En quelques semaines, ce film explosa tous les records, dépassant au passage Le Parrain et L'Exorciste, qui étaient jusque-là les rois du box-office. Les Dents de la Mer a donc lancé cette mouvance, qu'est le blockbuster, 2 ans avant l'arrivée du premier Star Wars, sorti lui aussi, du coup, à l'orée de l'été. Le film qui nous intéresse aujourd'hui marque également l'émergence d'un futur grand réalisateur, Steven Spielberg, qui transforme là l'essai après avoir mis en scène 2 films prometteurs, Duel et Sugarland Express. Tourné avec un budget initial de 4 millions de dollars, Les Dents de la Mer en remporta finalement 470 à travers le monde, avant d'obtenir 3 Oscars, dont celui de la meilleure musique de film attribuée à John Williams, qui compose là certainement, allez, un des 3 thèmes les plus connus de l'histoire du cinéma. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Joe.
Alors moi je fais partie des personnes qui ont vu Les Dents de la Mer beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que j'étais chez Jean-Yves, un pote de mes parents, un samedi soir, mes parents allaient bouffer chez leur pote Jean-Yves, qui avait un fils qui aujourd'hui est, je sais plus s'il est directeur photo ou assistant réal, il bosse beaucoup avec le fils Gélin sur tous ses films et tout. Enfin, c'est un mec qui fait du cinéma maintenant, qui était donc déjà très très passionné de cinéma. Il était ado quand moi j'étais tout petit, et on était allé dîner chez eux, et je me souviens dans sa chambre il y avait des posters de Bruce Lee. Enfin, c'était vraiment un cinéphile fan de cinéma de genre et de tout ce qui cartonnait dans les années 80. Et moi, ça me fascinait à chaque fois d'aller chez lui, me montrer des films d'arts martiaux et tout. Et un soir, il m'a collé devant Les Dents de la Mer, un samedi soir, alors que les parents bouffaient en bas. Moi, je devais avoir vraiment, genre 5 ans, 6 ans peut-être, maximum. Et on était dans sa chambre là-haut et on mate Les Dents de la Mer. En fait, ça a été catastrophique. Enfin, ça a été un traumatisme qui encore aujourd'hui perdure, quoi, si tu veux, parce que c'est beaucoup trop tôt pour un.
C'est les meilleures conditions de tournage quand tu es en France.
Mais en revanche, c'était incroyable. Enfin, l'expérience a été folle. Et je pense décuplé par le fait que j'avais pas du tout l'âge d'être devant ce film, ça a laissé des très 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 grosses séquelles, et en même temps ça a créé, je pense que c'est une des pierres fondatrices de qui je suis aujourd'hui, de mes goûts cinématographiques, de ça a déclenché plein de choses en moi, mais aussi un très très gros très très gros traumatisme.
Beaucoup t'aimes bien les requins, quoi.
Un peu, ouais, ça a déclenché entre autres la fascination pour les requins, ouais. une peur mêlée d'une fascination qui fait que à l'époque où tous les gamins étaient fans de dinosaures, moi j'achetais des bouquins sur les requins, j'achetais des jouets de requins.
Est-ce qu'en été tu portes une dent de requin en collier?
Non, je l'ai jamais eu ça. Je l'ai trouvé toujours un petit peu badass les mecs qui avaient ça. Ouais, alors qu'en fait c'était probablement un peu kéké.
Et pourquoi que l'été? Je comprends pas.
Ça se porte l'été, ça.
Ah, ok. Là,
là. Ou, en tout cas, c'est l'été que tu la vois, quoi.
C'est l'été
que
tu vois les... Et je rajoute le mytho que c'est la dent qui m'a effectivement mordu, puis j'ai tué le requin.
Ah, voilà, bien voilà.
La dent.
Je me suis battu avec un ours.
Avec un coup de poing.
Guillaume, ton premier souvenir des Dents de la Mer?
Eh ben histoire beaucoup moins ouf parce que j'y réfléchis et je m'en souviens pas du tout.
Eh ben super.
Et non mais je pense que c'était tu sais ce genre de film où quand t'es petit tu vois que la première moitié pendant archi longtemps parce que tes parents ils disent allez il y a école, tu vas te coucher et puis du coup
alors que la première moitié est un peu violente quand même.
Ouais voilà, mais t'es un peu là genre ok c'est cool et en fait et je me souviens même pas de la fois où je l'ai vu en entier, mais surtout je me souviens pas d'avoir j'étais content de le voir et je me souviens pas d'avoir un souvenir comme Joe où j'étais marqué d'ouf. Je pense que je l'ai vu tard du coup en entier et en fait j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, tu sais ce film où tu te dis ouais j'ai vu plein d'extraits, j'ai vu machin,
tu l'as vu après, en trop de fois. Ouais,
je l'ai vu en trop de fois et du coup ça m'a un peu gâché l'effet, mais effectivement j'adore ce film et maintenant j'ai ça fait partie de mes films, enfin c'est pas un film préféré mais en tout cas c'est un film que j'adore, mais après c'est vrai que la première fois j'ai pas de souvenir de ça. Ouais,
Aurélien?
Eh bien moi pendant très longtemps ce que je pensais être les Dents de la Mer c'était les Dents de la Mer 2. J'avais l'air bien con parce que je racontais genre ouais tu sais à la fin avec le câble électrique et tout, bon je spoil la mort mais et donc je pensais que c'était ça les Dents de la Mer, tu vois. Donc pendant très longtemps j'étais comme un con et un jour il y a eu une séance, mais je pense que j'avais genre 25 ou 30 ans, tu vois, de les Dents de la Mer au cinéma et j'y suis allé en mode c'était présenté par Philippe Rouillet machin truc là.
Ça, je l'ai vu plein de fois, je connais par cœur.
Et j'étais au premier, j'étais au premier rang, et c'était mortel de fou, en fait, parce que vraiment, j'étais à fond dans le film, et il y a plein de trucs que j'avais pas capté, je me rappelais pas, comme toi, en fait, il y avait plein de scènes.
Ouais, tu vois.
Que j'avais mélangé tous les films, moi, j'avais même mélangé un moment où c'était un requin mécanique et tout, enfin bref, je pense que c'est...
Est-ce qu'à la fin, t'as demandé où était passée la scène du câble?
Ouais, t'es ouf.
Ils ont enlevé la scène du câble dans le...
Il y a plus l'île avec les enfants et tout, là, je comprends pas, c'est quoi ce délire? Et donc pour le coup, c'est ça mon plus gros souvenir. C'est au cinéma il y a pas si longtemps en fait. Je pense que c'est la première fois que je l'ai vraiment vu en entier. C'était une première fois 30 ans.
Ouais.
Ouais.
Moi je crois que mon premier souvenir lié au film c'est la musique. Plus que le film.
Ouais, bien sûr. Ouais, c'est
et ces fameuses deux notes là, les Mifa. Mmh. Et en fait,
il a l'oreille absolue.
Et en fait, c'est vraiment le premier souvenir qui m'a marqué quand j'ai vu le film. Et c'est un truc que je faisais avec mon chat, c'est-à-dire que quand j'étais petit,
sans aucune transition.
Non mais quand j'étais petit, j'étais sur mon lit, je voyais mon chat qui marchait autour du lit et en fait on voit juste le haut de la queue, on voit pas le corps du chat. Et en fait à chaque fois que je voyais ça, j'avais le réflexe de faire la tong 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 tong. Et en fait c'est il arrivait sur le lit, etc. Donc c'est vraiment la musique mon premier souvenir. Et si je devais me souvenir d'une image, ce serait ce fameux plan. C'est vraiment même enfant, c'est un plan qui m'a marqué, le ce qu'on appelle le travelling contrarié, ce plan où on voit le chef de la police sur la plage. En fait, le travelling contrarié, c'est une sorte de, c'est un travelling avant, puis en même temps, un zoom arrière. C'est un truc qui avait fait Hitchcock pour la première fois, je crois que c'est avec Sueur Froide. Et cette image, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, ok, bah, c'est trop bizarre. Enfin, tu sais, tu comprends pas quand je devais avoir, je sais pas, 11, 12 ans, tu vois. Mais tu comprends pas trop ce qui se passe avec l'image à ce moment-là, mais tu sais que c'est fou ce qui vient de se passer à l'image, tu vois. Et maintenant, quand je pense aux Dents de la Mer, je pense à ce travelling contrarié. Vraiment, c'est le premier plan qui me revient en tête.
Ouais, puis je pense que tout ce qui se passe la minute avant ce travelling contrarié.
Oui, il y a la crainte qui monte.
T'as les allers-retours où à chaque fois tu passes, t'as quelqu'un qui passe devant Roy Scheider et c'est ce qui sert de cut pour que la caméra filme l'eau et tout et qui arrive avec ce plan contrarié à la fin. C'est fou, quoi. Je pense que
monte la tension de dingue.
Ouais, et je pense que quand effectivement tu vois ça jeune. Tu te rends pas compte que la progression qui mène à ça fait que quand tu te retrouves face à ce truc-là, c'est
ouais, bien sûr.
Ce qui t'arrive, c'est fou, quoi.
Est-ce que Les Dents de la Mer est le meilleur film de Spielberg, Joe?
Pour moi, oui.
Pour toi,
Pour moi, ouais, c'est mon Spielberg préféré. J'aurais pas la prétention de dire c'est le meilleur Spielberg. C'est mon Spielberg préféré.
Tu oublies quand même Le Bon Gros Géant, quand même.
C'est vrai,
je le trouve un peu sous-estimé, Le Bon Gros Géant.
Pourquoi pour toi c'est le meilleur film de Spielberg?
Parce qu'en fait, il y a tout est là. Tout est déjà là, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire par la suite n'est qu'une extension, je trouve, de tout ce qu'il a, de toutes les pierres qu'il a commencé à poser dans les Dents de la Mer. Et puis, je pense aussi, a posteriori, que c'est mon Spielberg préféré parce que après avoir lu, vu des making-of de ce film et constaté à quel point tout le monde, enfin tous les éléments se sont acharnés contre ce film et comment c'est un miracle en fait qu'il existe et qu'il soit aussi fort qu'il ne l'est. pour moi, c'est une sorte de truc que le mec a soulevé à bout de bras pour essayer de le faire sortir de la flotte, clairement. Et je trouve ça incroyable. Et puis, je trouve que au-delà de tous les autres films qu'on pourrait citer de Spielberg, que ce soit de La Liste de Schindler ou Jurassic Park, tout ce que tu veux, fait, il a ce film-là a quand même créé un précédent. Comme tu le disais, c'est la création du blockbuster moderne. Et pour moi, en fait, quand tu me parles de cinéma, pour moi, ce film représente tout ce qui pour moi est et fait le cinéma, quoi. C'est-à-dire que c'est un blockbuster, mais en plus il y a pas que ça dans ce film. Je trouve qu'il y a plein de choses qui vraiment relèvent du cinéma d'auteur pur, qui sera la patte de Spielberg par la suite. Et donc ouais, pour moi c'est mon Spielberg préféré.
Ouais, parce que tu le disais juste avant, les conditions de tournage ont été très compliquées. Il y a eu cette fameuse histoire d'animatronique requin qui ne fonctionne pas. Puis aussi, faut savoir que réaliser sur l'eau, c'est les conditions de tournage les plus difficiles.
Surtout à l'époque, quoi.
Ouais, surtout à l'époque. Ils ont plein de problèmes avec les syndicats de techniciens, etc. Tout le monde soit syndiqué, et donc ils ont fait la misère pour ça.
Ouais.
Et ils ont dû payer 100 000 euros de caution pour pouvoir tourner. 100 000 dollars probablement. Roubles, excuse-moi. Ouais, j'ai fait la conversion,
mais pour l'animatronique, ils ont créé l'animatronique, mais ils l'avaient jamais testé sur l'eau.
Non.
Et la première fois qu'ils l'ont testé sur l'eau, il a juste coulé en fait. Il a fallu aller le chercher tout au fond de l'eau.
Devant les deux producteurs et tout, qui étaient venus exprès pour faire. On va vous montrer le requin. Yes, on vient, génial.
C'est une galère. Et récemment, j'avais lu. J'ai oublié le nom du réalisateur. C'est bête, mais en tout cas, le plus important, c'est ce qu'il avait dit. Il disait les films à tourner sur l'eau, c'est les pires films. Mais il a dit le pire film que vous pouvez tourner, c'est un film sur l'eau, et sur le bateau, il y a des animaux et des enfants. Parce que c'est aussi avec les animaux et les enfants que c'est le plus compliqué de tourner en général. Donc un film sur l'eau avec des enfants et des animaux, c'est le pire film. Le film le plus dur à réaliser. Voilà. Est-ce que pour toi, Guillaume, Les Dents de la Mer, c'est meilleur Spielberg?
Non, probablement pas, mais j'aurais du mal à dire. C'est compliqué de pas citer La Liste de Schindler en tant que réalisateur, en tant que maestria. Mais après, en tant qu'affectif, évidemment, je suis plus team dinosaure que team requin. J'ai envie de dire quand même Jurassic Park pour la claque absolue que ça m'a mis quand j'étais petit, quoi.
Aurélien.
Moi, il y a quand même Le Bon Gros Géant. Et après, le Pont des Espions. Non, je sais pas, c'est impossible.
Je rigole.
Moi, en fait, j'aime bien tout, en fait. Même ces derniers films un peu plus, tu vois, académiques. Il fait un peu du Sidney Lumet, tu vois. Non, mais
Tintin, c'est cool, hein.
Je l'ai pas vu, Tintin. Si
mais c'est très bon, Tintin.
C'est super. J'ai vu Tintin il y a pas longtemps.
Je l'ai pas vu, excusez-moi.
C'est magnifique.
Au milieu du film, il y a une scène de course-poursuite.
C'est en 3D, non? Oh là là,
la scène de course-poursuite, franchement.
Oui.
C'était en 3D, Tintin.
C'est pas vraiment la
3D. Mais il y a une scène au milieu du film où il y a une course-poursuite. Et franchement, j'étais au cinéma, j'avais l'impression d'être dans une montagne russe.
Incroyable.
Ouais.
C'était dingue.
La réelle, elle est folle. Il y a des trucs qui reviennent. C'est une ville entière qui descend. Je l'ai revu là. Waouh. Très bien réalisé.
C'est vraiment, vraiment
frustrant qu'il n'y ait pas de suite. Je suis toujours sur la scène de fin de ce film.
Est-ce que les fans de Tintin ont aimé ce Tintin? Ça, c'est une autre question.
Le truc, c'est qu'il a vraiment bien respecté l'univers, tu vois. Après, il a mélangé énormément d'albums, mais il a vraiment fait la version américanisée Spielberg de Tintin. Pour le coup, c'est respectable parce qu'il n'a pas mis à l'envers des personnages. Tu sens qu'il kiffe les personnages.
Ouais.
Il kiffe tellement que Tintin a été une des inspirations pour Indiana Jones.
Ouais, tout à fait.
Donc non, c'était un juste retour des choses.
Très bon film.
Et toi, du coup, t'as pas dit ton préféré?
Bah parce que je sais pas. non, Indiana Jones, je pense. Ouais, je pense quand même.
Ouais, Indiana Jones. Ouais.
Je pense c'est les personnages en fait qui m'ont le plus marqué, tu vois. C'est Spielberg, E.T. Tu vois, E.T. Jurassic Park, j'ai moins. Je pense qu'Indy, ça m'a bien marqué.
Ouais, mais
le 3, bien. Tu vois. Et après.
C'est vrai qu'on en.
Je sais pas, c'est impossible. Hein.
C'est vrai qu'en y repensant là, E.T. Si pour moi il devait y avoir un film qui marque, enfin qui symbolise comme ça la filmographie de Spielberg, ce serait E.T. parce qu'il y a un peu tout dedans. Il y a l'imagerie de la famille, des suburbs.
C'est dur.
Il y a de la science-fiction.
Et puis tue aussi.
Non, mais c'est dur.
Même les Spielberg mineurs sont bien. Donc,
bah oui. Même Duel qui à la base était un petit film.
Ready Player One, il est dur.
Ouais,
moi, je suis moins fan.
Je m'inscris parmi la team des gens qui ont vraiment bien aimé.
Ok.
Ah ouais.
D'ailleurs, finalement,
Tarantino.
Duel, finalement, c'est un peu un Les Dents de la Mer avant l'heure, un peu finalement.
Ouais, bah c'est, mais c'est même pour ça que Spielberg a choisi de, enfin pas choisi, mais que quand il est tombé sur le scénario des Dents de la Mer, il a fait tout de suite une sorte de connexion avec avec son film Duel, et il dit même que comme il était jeune et probablement un petit peu stupide, il avait vu des signes partout et était là genre ouais, Duel c'est quatre lettres, Jaws c'est quatre lettres, en fait je pense que il faut que ce soit mon prochain film, c'est un signe du destin. Aujourd'hui il dit qu'il s'en veut un petit peu d'avoir pensé comme ça, mais ouais et je crois que le producteur avait saisi de cet argument aussi un petit peu pour le pousser à accepter le film. Il avait dit voilà, t'as fait un film sur une sorte de monstre qui poursuit les humains, sauf que là c'était dans le désert de la, je sais pas, l'Arizona ou quoi, bah tu vas faire pareil sur l'eau quoi.
Et ça, mais, dit, ouais, ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça sur le ouais, je vois un signe du destin parce que c'est quatre lettres, etc. Et au début de sa carrière, Spielberg, il était donc c'était un jeune réalisateur, il était très passionné par ce qu'il faisait, et en fait pour ce film il voulait à tout prix John Williams. Et parce que John Williams avait fait déjà des musiques qui avaient fonctionné dans des films à succès, et lui c'était un jeune réalisateur, donc c'était compliqué de faire la connexion. John Williams accepte d'aller le rencontrer, ils vont au restaurant ensemble, et John Williams expliquait qu'il avait en face de lui un jeune qui était un peu, enfin, qui était pas vraiment à sa place, il savait pas servir de l'argenterie, il était un peu gêné comme ça et tout, et en fait il s'est dit c'est quoi ce type, ça va être un peu bizarre et tout, et finalement il a discuté et il a dit j'ai l'impression qu'il en savait plus sur ma vie, sur ma carrière que moi-même quoi. Ouais. Et je me suis dit bon bah ce mec est fascinant et passionnant, je lui ai dit oui tout de suite pour Jaws quoi. Donc ouais. Voilà. Alors Guillaume, ce qui fonctionne parfaitement avec les Dents de la Mer et ce qui nous fait peur, c'est que durant une grande partie du film, on ne voit pas le requin. Et la peur hors champ, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux.
Exact, ils sont nombreux ces films où on a peur sans jamais identifier clairement la source. Quoi de plus terrifiant qu'une bestiole qu'on ne voit pas? Bon bah Freddy Krueger, vous allez me dire, mais bon, c'est pas, ça va niquer ma chronique, donc on va le laisser de côté. On a d'abord tous les films calqués qui reprennent inlassablement le même principe avec différents animaux comme Piranha, Pieuvre géante, Requin géant, Requin à trois têtes, avec Danny Trejo, ouais. Alligator.
Genre dans les bons coups.
Ouais. Anaconda, Castor Zombie. Aussi.
Yes.
Pas mal. Araignée géante et j'en passe. Jaws a été une source d'inspiration monumentale pour le cinéma d'épouvante. N'en déplaise à Jack No, un spectateur qui s'exprime sur son mécontentement sur le site d'Allociné. Évidemment, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu.
Ouais. Mal conçu. Montage grossier. Personnage insipide et requin en plastoc. Film pour idiots à la recherche de sensations fortes. Spielberg a fait illusion avec sa daube.
Merci. Jack No, il a pas aimé. Hein. Jack No, il a mis zéro étoile. Si je vous dis, par exemple, le film le plus connu sur le même principe que Jaws et qui revendiquait lui-même un Jaws in Space, vous me dites Alien, évidemment. Alien, ouais. En 1979, Ridley Scott a bien compris que le principe de moins j'en montre, plus c'est flippant, fonctionne à part le facehugger et le bébé chestbuster, comme on dit, qui sort du ventre de John Hurt. L'alien adulte, si on peut appeler ça comme ça, est furtif, suggéré en plan très serré ou pris dans un écran de fumée. Pensée spéciale pour la scène où il apparaît dans le dos derrière Harry Dean Stanton, flou et déjà flippant. C'est le même principe qu'on applique dès l'enfance pour faire peur à ses petits camarades. On se cache et on surgit. Ça interroge nos peurs enfantines les plus primales. L'inconnu, le silence et finalement l'imaginaire. Et surtout, le requin de Jaws ou l'alien de Ridley Scott ont une haine sanguinaire qu'on ne peut pas maîtriser. Dans le même principe, on pourrait aussi citer The Descent en 2015, que j'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu?
Ah ouais.
Ouais.
De Neil Marshall.
En 2005, pardon. Ouais, et j'ai envie de le voir, du coup. Ça a l'air vraiment cool. Où la pénombre fait constamment monter la tension, ou alors The Host de Bong Joon-ho, The Host, avec l'accent, de Bong Joon-ho en 2006, que j'avais trouvé vraiment trop bien. Comme une autre créature dans un film beaucoup plus musclé qui a recours au même principe et qui va même par la suite se taper avec le premier que j'ai cité, j'ai nommé
Predator
de John McTiernan en 1987. C'est même la spécificité de cette bestiole, elle a le pouvoir d'être invisible. Dans un combat alien contre Predator, vous préférez Alien ou Predator?
Alors déjà, je dois dire que quand je pense à peur hors champ, Predator, c'est un des premiers films qui me vient à l'esprit. Ouais.
Parce qu'on le voit quasiment.
Ouais. Les scènes dans la jungle, ils sont juste avec les flingues en train de regarder en l'air et tout, tu vois, c'était mon flippant ça.
Mais moi, ça me faisait pas peur, Predator. C'est génial, hein, j'adore. Hein. Mais c'était plus du suspense, d'action. Que de la peur viscérale comme Alien, tu vois. Ou Alien, vraiment, genre, je
vois ça. Du coup, tu demandes qui est le plus fort entre Predator et Alien, mais il y a eu un film.
Ouais, il y a eu un film, alors je les ai pas vus.
Mais deux même.
Est-ce que
trois, non?
Non, deux. Je sais pas,
de
la merde.
En termes de créatures, vous préférez Predator ou Alien?
Alien, il est plus stylé, quand même.
Ouais, puis Alien, je trouve qu'il a un background plus profond que Predator.
Il est plus flippant, non?
Predator, on dirait un reggae man qui s'est pris un coup de fusil dans la bouche.
Non, mais en fait, Predator, c'est un chasseur de primes, tu vois, c'est une sorte de mercenaire de l'espace et tout, donc tu peux l'imaginer. En fait, tu me dirais, ouais, il apparaît dans le background d'un Star Wars et tout, je dirais, il vient d'une autre planète déjà. Alors que l'alien, si tu veux, tu peux pas discuter, quoi, tu peux pas.
Mais tu sais, à chaque fois, je me dis, l'alien dans le film, son but, c'est de tuer tout le monde dans le vaisseau.
Ouais.
Bon, bah, c'est très bien, mais s'il tue tout le monde, il se retrouve comme un con après dans le vaisseau qui vogue dans l'espace.
Il y a un peu ce truc-là où si tu te dis, en fait, c'est des gens qu'on peut pas raisonner, quoi.
Ouais, mais attends,
attends, deux secondes. Qu'est-ce que tu veux, en fait?
Il tue pas tout le monde parce que dans le cut de Scott, t'as une scène qui n'est pas dans la version ciné où en fait on se rend compte que l'alien n'a pas tué Dallas, le capitaine, mais là comme dans le 2, scotché au mur dans des trucs de Venom là, et l'a inséminé. Donc en fait son but c'est pas forcément de les tuer tous, c'est de les transformer en sorte de porteurs de d'œufs.
Mais alien. Du coup voilà, mais du coup ça fait une grande famille dans le vaisseau. Voilà, le problème reste le même.
Oui.
Ils vivent dans le vaisseau.
Oui, mais sauf qu'ils sont tous ensemble, quoi. C'est une sorte de petit confinement d'aliens.
Okay, beau projet.
Ils sont ensemble.
Et du coup, ce sera donc l'alien, le vainqueur de ce combat entre Alien et Predator. Mais Predator finit les ambiances nocturnes et claustrophobiques de l'espace, puisqu'elle peut même vous terrifier en plein jour. Et si finalement, regardez bien la transition, si la peur n'était pas dans les caprices de la météo, vous me voyez bien avec cette transition hasardeuse, comme par exemple dans The Fog de John Carpenter,
magnifique.
En 1980, où un petit village de pêcheurs est terrorisé par des meurtres inexpliqués qui correspondent à l'arrivée d'un brouillard sur la ville. Brouillard qui se trouve finalement peuplé de fantômes assoiffés de vengeance. On en reparlait il n'y a pas longtemps, parce que JB l'a vu il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai revu l'année dernière. C'est un très bon film. Et j'ai vu aussi, alors, un film que je n'ai jamais vu par contre, qui est The Mist, qui est apparemment quasiment la même chose.
Ouais.
Alors, dans un centre commercial avec du brouillard.
Et d'ailleurs, dans The Fog, je trouve que dans la réale, et la petite ville, la musique, il y a une petite ambiance Jaws un peu.
C'est le village de pêcheurs aussi.
Ouais, un petit peu.
C'est
un peu ça. Puis une petite ambiance radio aussi. Toutes les scènes dans la radio, dans le phare, là, moi, j'adore.
Et tout à l'heure, on parlait de la filmographie impressionnante de Spielberg. Et je trouve qu'on parle pas assez de John Carpenter, parce que quand on voit sa filmographie, on se dit, mais c'est dingue le nombre de films cultes qu'il a fait, Carpenter. Ouais,
pas grave. C'est juste qu'il
a un peu plus bricolé, quoi.
Moi, je pense qu'il a pas c'est quand même un réalisateur culte et tout, mais c'est surtout qu'il a pas la même étendue que Spielberg.
C'est-à-dire
il n'a pas fait une liste de Schindler, tu vois, pas fait un truc, il est resté vraiment dans le cinéma de genre pur. Mais non, c'est vrai. Mais quand tu penses que E.T. et The Thing sont sortis le même été, la même année.
C'est ouf ça.
Et aujourd'hui Carpenter il dit je me suis fait chier dessus parce que moi j'ai sorti un film avec un alien qui butait tout le monde, Spielberg il a sorti avec un alien qui était copain avec tout le monde et évidemment celui que tout le monde est allé voir c'est celui de Spielberg.
Surtout qu'à la base ce que voulait faire Spielberg pour E.T. c'était une bande d'aliens qui traumatisent une famille, donc des aliens méchants et après ensuite il a fait Poltergeist qui est un peu différent mais il voulait pas faire deux films d'horreur en même temps donc à la base ça aurait pu être deux films quand même sensiblement équivalents sur des aliens qui foutent la merde quoi.
Ouais grave.
Et donc The Mist de Frank Darabont en 2007 et qui rejoint The Fog, preuve qu'on peut faire peur avec très peu de moyens comme par exemple une machine à fumer. Mais c'est entièrement faux puisqu'il faut aussi avoir du talent comme Jacques Tourneur avec la Féline en 1942. Est-ce que vous avez vu ce film?
Ouais.
Film dans lequel une femme est persuadée d'être sous le coup d'une malédiction comme toutes les femmes de son village en Serbie, qui transforme les femmes en panthères meurtrières sous le coup de la colère ou de la jalousie. La tension est toujours suggérée dans le film, on ne voit que des ombres, on n'entend que des cris, on ne voit jamais la vraie bestiole. Et Jacques Tourneur, pour l'info, dans ce film, il a inventé l'effet bus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. L'effet bus, en fait, c'est comme il y a une scène en fait, où elle se fait poursuivre par la femme, par une autre femme, dans un silence, en fait c'est une course poursuite à pied où elle n'arrête pas de se retourner, elle ne sait pas où elle est. L'effet bus, ça consiste à... Comme par exemple, t'as peur d'un truc, d'un coup, il y a un chat qui rentre dans le champ et ça annule toute la tension. Et on sait plus si le bruit venait du chat ou s'il venait de, tu vois. Et l'effet bus, c'est que dans cette scène, il y a un bus qui arrive. Et d'un seul coup, ça annule la tension de la scène. Mais ça casse l'ambiance. Mais du coup, elle est là. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que tu sais? Ça crée une autre tension, tu vois.
L'étrangeté.
Ça a été inventé dans ce film, figurez-vous. L'effet bus. Et après, pour l'exemple ultime des années 90 où on a peur sans aucun indice, on en a parlé souvent, j'ai quand même cité le projet Blair Witch.
C'est vrai.
Parce que on a peur, mais on sait pas de quoi on a peur.
Jusqu'à la fin, en plus.
Et jusqu'à la fin.
C'est vraiment genre.
C'est ça qui fait flipper à fond.
Voilà, tu as un mec contre un mur et puis des petits bouts de bois, assemblés, quoi.
Vous avez dit la fin, mais c'est pas grave.
J'avoue.
Pour ceux qui l'ont pas vu.
C'est toi qui a dit que c'était la fin, mais
j'ai pas
dit quand est-ce que c'était.
C'est ça, c'était tout en. Évidemment, pour ceux qui l'ont pas vu, tout en found footage, dont le plan de fin reste dans toutes les mémoires. On n'explique rien, on ne voit rien, mais qu'est-ce qu'on flippe pour le projet Blair Witch?
Ça flippe à voir.
On aura compris que moins on nous en montre, plus on a peur. Mais qu'en est-il quand on ne nous montre carrément rien? Comme dans Le Prince des Ténèbres de John Carpenter, encore lui en 1987, où le personnage est en prise directe avec le diable, la matière et l'antimatière. On a peur de tous les signes, mais on ne personnifie jamais le démon. C'est juste, moi j'ai adoré ce film.
Ouais, il est fou. Ouais.
Il en va de même pour la peur la plus ultime, à savoir, évidemment, la mort.
C'est flipper la mort.
Bah ouais, mais
ça fait peur la mort.
Non mais comme destination finale. Destination finale, on a peur de quoi?
Ah oui, c'est la barre.
On peut, même pas la personnifier, c'est juste qu'on a peur. Et puis on est là, bah ok.
Et puis en plus, dans Destination finale, finalement, le, si on peut appeler ça le méchant, entre guillemets, il est partout. Ça peut être un tronc d'arbre à l'arrière d'un camion.
Donc, en fait, c'est juste une ambiance globale où on ne montre pas grand chose. Ma question étant, pour finir cette chronique, pourchassé par un requin, des aliens, le démon ou la mort elle-même, personnellement, je préfère ne plus me baigner.
Bah,
ok.
Ouais.
On était à la campagne avec Guillaume il y a deux jours, même pas.
On a bien mangé.
On a bien mangé.
JB a fait manger.
Et on était dans la forêt en pleine nuit. Ça faisait un peu peur. Moi, Guillaume n'avait pas peur.
Non, attends. Non. On peut en parler ou pas?
Non.
On peut en parler ou pas?
Non, mais ça faisait un peu peur.
Ça faisait pas peur.
Non, attends. Noir total.
Si je peux rajouter un truc, on n'était pas dans la forêt en pleine nuit.
Si.
Ok? Non. Ok. En fait, on était dans le domaine d'un château, ok?
Ouais.
Et en fait, il y avait, l'après-midi, on a fait un tour dans le parc du domaine, tu vois. Donc, c'était le parc du domaine. On était sur un grand chemin. On a repris le même chemin en pleine nuit. Il a fait, non, mais il fait trop noir, j'aime pas et tout. On est dans les bois. On était pas dans les bois, c'était le même.
Si, on était au milieu des bois.
Le même truc.
Il y avait aucun éclairage et.
Ah oui, il y avait pas d'éclairage.
Ben voilà, il y a pas d'éclairage.
Mais ouais. Il nous tenait le bras, bon, après, voilà. Non, je l'ai dit ça ou pas?
Faut savoir que j'avais regardé un épisode de Faites entrer l'accusé la veille.
Donc, aïe.
J'étais pas dans les mêmes prédispositions que vous.
T'avais la petite musique dans la tête et
ouais,
tout.
J'étais pas dans la même ambiance que vous.
Et aussi, ouais. si tu commences à courir dans une forêt, comme ça, tu peux devenir fou.
C'est-à-dire?
Ça peut te rendre fou. C'est-à-dire que il y a
dans le noir.
Ouais, si tu, dans la forêt, dans l'obscurité, comme ça, si tu commences à flipper un tout petit peu, comme t'as pu éventuellement flipper avec Guigui, là,
ouais,
et que tu te mets à courir, ça te rend fou parce que plus tu cours, plus tu flippes de ce que t'as derrière toi, et plus tu, c'est vraiment, il y a des gens qui deviennent fous.
C'est pour ça, c'est exactement l'explication.
Et après, il y avait un deuxième truc bien flippant, c'est que dans sa chambre, il avait aucune fenêtre. Il y avait un lit d'enfant. Il dormait seul avec un lit d'enfant.
Et aucune issue à part la porte.
Non, et c'est moi qui avais le verrou de mon côté, donc je pouvais l'enfermer dans la chambre. Et ça, c'est pas mal.
Et du coup, j'ai fait exprès de dormir de l'autre côté pour pas avoir à regarder le lit d'enfant.
Oh là là.
Tout d'un coup, tu vois une tête d'enfant et tout, c'est relou. Non, merci. Et donc, alors pour revenir sur la peur hors champ, avec les dents de la mer, et on en parlait d'ailleurs, on a une conversation WhatsApp We Love TFTC avec Aurélien et Guillaume. Et on parlait justement du film de Carpenter, on parlait de la peur hors champ. Et Aurélien, tu me disais, ça manque quand même ces films comme les films de Carpenter où le cinéma est palpable. On sent que c'est filmé. On parlait dans un autre épisode de Robotine qui créait comme ça des monstres. D'ailleurs, il a travaillé sur The Thing. Et ça manque ce cinéma un peu organique, un peu palpable. Et dans cette conversation, on disait aujourd'hui, tout peut être réglé avec un fond vert ou de la CGI, etc. Et pour Les Dents de la Mer, il faut savoir que à la base, si l'animatronique avait plus fonctionné, on aurait plus vu le requin. C'est-à-dire qu'en fait, Spielberg a été obligé de se dire « Ah bah merde, vu que ça fonctionne pas, bah ce plan, on va le suggérer, celui-là, on va le suggérer également. » Et finalement, bah le film s'en retrouve amélioré parce que cette peur hors champ, on la retrouve dans le film. Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que s'il avait fait Jaws en 2020, il y aurait eu un requin partout, ça n'aurait pas été le même film en fait.
Je suis d'accord avec ce que tu dis hein, parce qu'en plus ça a été expliqué maintes et maintes fois, mais il y avait quand même une volonté de Spielberg avant que le requin ne fonctionne pas de quand même suggérer une certaine partie des choses quoi. Par exemple la scène d'intro qui est une des plus grosses scènes d'intro de l'histoire du cinéma, à mon sens, hein, la première attaque en pleine nuit là sur la plage. Au départ, le script prévoyait la jeune femme aille se baigner et que en gros tu vois une sorte de Léviathan géant qui la chope et direct en fait Spielberg il a dit mais non mais en fait ça va être spectaculaire comme scène d'intro mais il va pas y avoir la peur profonde qu'inspirera juste la flotte quoi. Et en fait, ils ont transformé ça au dernier moment en des mecs de chaque côté de la plage qui tirent des câbles auxquels était accrochée la nana et où en fait, tu vois rien à part juste une baigneuse qui se fait traîner à droite et à gauche dans la flotte quoi.
Mais du coup, le fait de pas voir le requin avant cette fameuse scène culte où il distribue des poissons dans l'eau comme ça puis on le voit arriver pour la première fois, bah ça rend cette scène culte finalement.
Ouais.
Et il avait fait des projections test Spielberg avant le film. Où on voyait le requin avant, et en fait, il s'était rendu compte que ça fonctionnait mieux quand on le voyait pour la première fois après, parce que il avait dit, c'est une leçon que j'ai appris après pour la suite, la première peur du public conditionne les autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu places cette peur-là, à ce moment-là, bah, le film n'est plus le même. Et donc, plus la peur arrive tard, et mieux le film.
Mais il y a aussi un truc par rapport au requin, c'est que du coup, ça a créé une peur, une mode de la peur du requin. Jaws, et ça avait, pour la petite anecdote, pour les amateurs de chansons françaises, ça avait tellement énervé Gérard Lenormand qu'il en a fait une chanson.
Ah ouais?
Et la chanson, c'est Gentil petit dauphin.
Ah, mais oui,
oui, c'est. Ouais, c'est attends, fait, c'était en réaction à ça. Le
et en fait, il était énervé qu'on se serve des animaux pour créer la peur.
Et donc, ça n'a rien à voir, c'est un dauphin.
Oui, mais en fait, c'était pour dire.
Surtout que les dauphins sont des violeurs, donc bon, c'est pire. C'est pire. Tu préfères te faire bouffer par un requin ou te faire violer par un dauphin?
Je rappelle que les requins sont gentils. Les requins sont pas forcément méchants, quoi. Voilà.
Alors,
mais c'est
juste.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette peur parce que
on va en parler, t'inquiète pas. Ah, c'est une bonne transition.
Vas-y.
Juste avant, les dents de la mer. Bah, en fait, non, c'est une très bonne transition parce que les dents de la mer a créé chez les gens une peur du requin.
Bah, c'est fou ça.
C'est incroyable. Est-ce que vous, de votre côté, le cinéma a créé une peur comme ça, un film qui vous a traumatisé plus qu'un autre? Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai vu un film d'horreur intitulé L'ascenseur, film dans lequel un ascenseur était armé d'une conscience qui le poussait à tuer les gens qui entraient à l'intérieur. Mmh. Alors, durant des années, j'ai eu peur de prendre l'ascenseur à cause de ce film. Joe, est-ce qu'il y a des films comme ça qui ont créé chez toi des peurs?
Bah, moi, il y a Les Dents de la Mer, clairement.
Ok, il y en a d'autres ou pas?
Il y a clairement Les Dents de la Mer et il y a le premier Halloween de Carpenter, justement.
Alors, ça a créé quel genre de peur, ça?
La peur des buissons.
Ouais.
Vraiment, la peur de la rue, la peur de. Moi, j'ai grandi dans une ville de banlieue, pas forcément ultra pavillonnaire. C'est toujours une ville de banlieue, pas du 95. Mm-hmm. Mais où, en fait, j'ai vu Halloween dans des conditions un peu étranges parce que c'était en plein après-midi à l'heure de goûter chez un pote sur une VHS qu'il avait enregistrée. Donc vraiment pas dans des conditions qui, normalement, sont censés te foutre dans la flip, quoi. Et en fait, c'est le père de mon pote qui a dû me raccompagner chez moi parce que je flippais de ouf. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez d'Halloween, il y a quand même toute une partie.
T'avais 19 ans.
Non, je devais être en 6e, je crois, un truc comme ça. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Et il y a toute une partie d'Halloween qui se passe en plein jour, dans les rues d'une ville de banlieue.
Et il apparaît derrière les buissons.
Et en fait, ça a vraiment déclenché chez moi cette peur de en fait, le danger, la mort, elle peut surgir de n'importe où, même du coin de ta rue, un mercredi après-midi, alors que tu rentres du bac à sable, quoi, si tu veux.
La peur des buissons, alors.
Ouais, la peur des buissons, je traduis comme ça. La peur des buissons. Qu'est-ce qui se cache derrière un buisson?
On a une fenêtre dans le studio d'enregistrement, et si tu te retournes, il y a des buissons partout, derrière.
La vache!
Il y en a partout.
Ouais, mais tu sais, si j'étais dans un Carpenter, là, je serais en train de te parler, et derrière le buisson, là, il y aurait la tête Michael Mayer en fond. Un petit peu dans le flou, tu vois. Et quand je me retournerai, elle serait plus là. Et t'entendrais juste ting, ting.
Juste, je voulais te prévenir qu'il y avait des buissons derrière. Aurélien, est-ce qu'il y a un film que ça qui a provoqué chez toi des peurs suite?
Après, j'ai pas bu. Moi, j'étais pas trop fan de films d'horreur. J'en ai pas trop vu quand j'étais petit. Et après, quand j'en ai vu, c'était que des films en mode c'est de l'horreur, mais rigolo. C'était genre les trucs gore et tout. Donc en fait.
Scream un peu.
Ouais. Et en fait, ça me faisait autant rire que, tu vois. Que peur. Donc je crois pas.
Pas peur, lui, au
cinéma. T'as peur de rien, toi, en fait.
Ouais, non, c'est pas ça, c'est que je me suis jamais provoqué des peurs au cinéma. Ouais. De base, je me disais genre, ah, c'est chiant. Si je me rappelle d'un truc, j'avais vu un film au cinéma, je savais pas que c'était un film d'horreur, ça s'appelait Jennifer 8. Un truc avec des aveugles là.
Ah ouais, ça, ah, mais complètement.
Et ça, c'était un peu
J'avais complètement oublié ce film jusqu'à ce que tu cites
le Silence des agneaux, tu vois.
Mais c'était la peur de quoi?
Ouais, Silence des agneaux,
c'était un truc sur le fait que tu voyais pas des choses et que, enfin, c'était un truc de thriller, quoi. C'était pas vraiment une peur particulière sur quelque chose, mais c'était une façon d'amener le délire de, t'as un mec qui va tuer des gens, un peu comme le Silence des agneaux, tu vois, genre, où d'un coup, t'as une scène qui est un peu bizarre, ou c'est dans le noir, et tu vois quelqu'un qui arrive sur le devant, et puis pouf. Et enfin, après, ça me changeait pas grand chose.
Guillaume.
Non, pas vraiment, mais en fait, je me souviens même qu'avec mes potes de Creuse, on se provoquait des peurs, justement. C'est-à-dire que quand on a vu Blair Witch, on l'avait vu au Cinoche, et après, on l'avait loué au Vidéoclub, je pense, l'année d'après, puisque ça sortait on l'avait re-regardé, style à minuit, et après, on était sortis dans la forêt à côté.
Il y en a plein qu'on fait ça. Quelle bande de cons, c'est la pire idée de la Terre.
Ah ouais, mais c'était trop bien, tu vois. On se provoquait, on se cachait, on faisait des trucs comme ça.
Bah, t'étais pas là durant l'épisode de The Mask avec Johan Sardet et Vincent Gagné.
Oui, que j'ai écouté, qui était très bien, bravo.
Ils ont fait ça. C'est-à-dire que Johan expliquait qu'il avait vu les Blair Witch et après il était allé dans la forêt avec ses frères.
Ah ouais, c'est vrai.
Et ils sont restés genre 15 secondes, quoi. C'était trop.
Ah non, on s'est carrément baladé et tout. Mais j'aimais bien faire ce genre de truc. Et en fait, souvent on se faisait ça. On allait louer des trucs vraiment d'horreur et après on s'est essayé de se faire flipper. Mais j'ai pas vraiment des peurs qui sont développées avec des films, non.
T'allais au bord d'un lac et tout.
Et pourtant, quand t'es petit, il y a vraiment ce truc où dans la maison de campagne, t'as oublié un truc là-haut, tout le monde est en bas.
Ça, non, tu
sais pas d'où ça vient, mais ça te fait flipper.
Ouais, c'est clair.
C'est trop bizarre.
Et aussi ce truc où tu dois aller chercher du coca à la cave et tu remontes en courant.
Carrément.
Mais après, autant aujourd'hui j'ai plus trop peur des buissons, autant quand je me fous à la flotte l'été, il y a toujours ce truc. Il y a toujours le truc. En fait, j'ai pas peur d'aller me baigner. mais t'as toujours le petit truc. Enfin, moi, j'ai toujours cette petite idée derrière la tête de qu'est-ce qui se passe en dessous.
Et surtout, ce qui est flippant avec l'océan, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous.
Bah voilà, c'est ça.
Je parle là des plages bretonnes. Parce
non, ça, c'est flippant.
Et toi, qu'est-ce qu'il y a
bah, l'ascenseur, je disais tout à l'heure. La peur de l'ascenseur.
C'est bien, t'as bien écouté.
Si, non, mais attends.
Alors, justement, je me rappelle de Monstres et Compagnie aussi. Sous le lit, là. Ouais. Quand je l'ai vu à 21 ans, ça m'a
fait. Ok, d'accord, très bien. Alors, du coup, Guillaume, t'en parlais tout à l'heure, ça a créé la peur du requin chez les gens et dans la mer. Et c'est assez injuste pour cet animal, puisque sur l'année 2020, par exemple, on a recensé seulement 57 morsures dans le monde pour, hélas, 6 décès. Il y a donc toute cette légende néfaste autour du requin. D'ailleurs, Peter Benchley, l'auteur du livre Les Dents de la Mer, ainsi que Steven Spielberg ont par la suite regretté d'avoir donné une si mauvaise image à cet imposant poisson. D'ailleurs, ça fait tout de suite moins peur quand on dit poisson pour un requin.
C'est un petit poisson.
Alors, afin de démystifier cette légende qui nous pousse à penser que le requin est l'animal le plus terrifiant existant sur Terre, je vais vous dresser une liste d'animaux qui, ces dernières années, ont bien plus tué que le requin.
Ah.
Et vous allez être assez surpris, figurez-vous.
C'est un quiz ?
Non, c'est pas un quiz.
J'adore les quiz.
C'est pas un quiz. Aujourd'hui, il y a des émissions où il y a plein de jeux. Là, il n'y en a pas tellement aujourd'hui. Mais des animaux comme ça, tueurs, plus que le requin en tout cas. Alors déjà, rien que les vaches sont manifestement plus dangereuses que les requins puisqu'on dénombre 22 décès sur l'année 2020.
Pas mal.
Les vaches, ouais,
pas mal. Parce qu'elles s'assoient sur toi.
C'est les mecs qui mettent leurs mains dans les anus de vache là et qui par un effet de ventousage.
Ouais, mais du coup,
se font aspirer dans le cul des vaches, mon vieux.
Mais qui fait ça?
C'est la manière de mourir.
J'ai des gens qui se font piétiner par les vaches. Ouais, c'est ça. Après, je prends bien conscience que l'homme a plus de chances de croiser une vache qu'un requin.
Oui,
ça rentre quand même en compte. Si on vivait dans un monde comme celui de Sharknado, ce serait pas si
victime.
Non,
mais aussi, faut pas oublier la corrida, les férias, tout ce truc. Hein.
C'est une vache.
Ça compte pas pour les vaches.
Ça doit compter.
Non, ça compte pas du tout. C'est un taureau.
Ça compte pas.
Non, c'est un taureau.
C'est des vachettes.
Il y a la vachette.
Mais la vachette ne tue pas.
Ah, peut-être.
La vachette, elle te démet une hanche ou un truc, je sais pas si elle te tue.
Elle te peut te piétiner quand tu cours.
Ah non, mais j'ai un souvenir quand j'étais.
Interville, mon pote.
Non, mais presque. Presque. Quand j'étais petit, j'étais en vacances. Alors, je sais plus, c'était dans le sud, je sais plus où. Et du coup, on était allé dans une arène. Et il y avait une sorte de spectacle. C'était vers l'Espagne et tout, frontière franco-espagnole.
Saint-Sébastien.
Et non, mais un truc comme ça, je sais plus. peut-être vers Bayonne. Enfin bref. Et du coup, moi, j'étais petit, je devais avoir 10-11 ans. Et s'organise comme ça, il y avait un taureau ou deux taureaux, un match de foot. Et du coup, c'était les volontaires qui allaient sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y avait un ballon et il fallait jouer au foot avec les deux taureaux.
Oh là là.
Et les deux taureaux qui étaient très excités.
Oh là là.
Il y a des gens
vous avez
qui
d'autres des idées à con comme ça.
Rouge. Non mais ouais. Et les gens décident d'y aller comme ça. Il y a des volontaires qui vont. Et moi je regarde ça et tout et je trouvais ça dingue, incroyable. Et il y a un type qui se fait piétiner par un taureau ou une vachette, je sais plus. Et avec les sabots dans la gueule, etc. Et ils ont arrêté le match d'un coup. Nous on est sortis de l'arène et j'ai croisé le type avec l'ambulance.
Oh non.
Et du haut de mes 11 ans, j'ai vu son visage déformé, ça m'a vraiment traumatisé.
Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Et c'est la fin de l'anecdote.
Mais franchement
mais quelle horrible anecdote.
Horrible.
Je sais même pas s'il est mort ou pas.
Non mais c'est pour dire que peut-être que c'est parmi les 22 décès ce type.
Mais ça valait le coup surtout.
Il y avait quoi à gagner.
Non mais c'est l'adrénaline d'aller jouer au foot avec et puis toi aussi le public qui est là, t'as envie de te la jouer
quoi. Oh là là. Taureau quoi.
Bah écoutez, c'est comme ça. Alors, on reste dans l'eau avec un animal qui cause 500 morts par an.
On peut deviner ou pas?
Allez, 500 morts par an, allez, à 500 morts. Non, mais j'ai pas envie de vous deviner.
Dans l'eau salée ou dans l'eau?
Non, mais après, justement, vous allez balancer des animaux qui seront peut-être là après.
Ah, ok. Ah.
Vous êtes tellement bon en quiz que c'est fort probable. C'est l'hippopotame.
C'est ghetto.
C'est hyper vénère, un hippopotame. Faut pas trop les faire chier.
Donc, 500 morts par an, même chiffre pour l'éléphant. Et là, on est vraiment dans la gamme des animaux trop mignons. C'est-à-dire que moi, par exemple, un éléphant, j'ai envie de le caresser, quoi.
Ah ouais,
alors que 500 morts.
Faut pas.
Toute la peau, elle a l'air chelou, quand même.
Ouais, non, mais je sais pas, éléphant, alors que bon. Ouais. Écoutez. Le prochain, c'est un animal qui cause 700 morts par an. C'est le ver solitaire.
Ah!
Eh ben ouais. 700 morts par an. Le ver solitaire tue plus que l'hippopotame, du coup.
Ouais, tu m'étonnes.
Et là, vous allez me dire, mais comment on se fait tuer par un ver solitaire?
Le ver solitaire, quelqu'un a déjà eu le ver solitaire?
Si tu le chies jamais, en gros.
Bah alors je vais vous dire, le ver
solitaire, tu l'élimines que en l'éliminant par le l'anus quoi.
Faut quand même un traitement. En fait, on attrape ça en mangeant de la viande crue ou alors pas suffisamment cuite.
Mm-hmm.
Donc vu que nous on est végétariens, c'est
ça se passe bien.
OK pour nous. J'ai lu un truc, c'est un peu alien finalement le ver solitaire parce que lorsqu'il entre en vous, votre corps devient l'hôte du ver solitaire.
Ouais.
Et en gros, ça provoque des lésions kystiques. Et puis, plein de complications qui font que chaque année, 700 personnes.
Pourquoi on l'appelle solitaire d'ailleurs?
Il est tout seul, le frère.
Il est tout seul, il se fait sa petite place dans tes intestins.
Il a une famille ou qu'est-ce que
c'est? Parce que c'est un parasite, t'imagines s'il évolue. Tu sais, au fil des générations et tout, il évolue et au bout d'un moment, il finit par prendre contrôle de toi. C'est comme dans un film d'horreur, vraiment.
C'est dégueu.
Ça pourrait.
Ça peut faire 8 mètres.
Comme dans Resident Evil, quoi.
Désormais, on entre dans la case des 1000 morts par an.
Oula,
ça devient très sérieux.
C'est un killer.
Et là, pour le coup, c'est un animal qui fait bien flipper. Un animal qui fait flipper.
La chauve-souris.
Non. 1000 morts par an.
Qui fait flipper visuellement, tu veux dire?
Ouais, un animal visuellement.
Avec, la hyène. T'es pas...
Ouais, ça fait bien flipper visuellement.
Et toi?
Bah, l'araignée, une araignée.
Non, t'es à côté, t'es vraiment pas serein, quoi.
Le moineau?
Bah, le lion, alors.
Non, 1000 morts par an. Non, le lion, j'avais lu, c'était dans les 200 ou 100.
Ouais, comme ça, l'approche jamais.
Ouais, il dort, le
mec. Bah, c'est vrai.
C'est un animal qui fait flipper. Enfin, moi, je flippe des araignées.
Non, pas le rat. Non. Alors, pour vous donner un petit indice. Non, pour vous donner un petit indice. C'est dans le domaine de l'eau, comme le requin.
Ah ouais, le
piranha.
Non,
le piranha, ça...
Le crocodile, ouais.
Le crocodile.
Le crocodile, 1000 morts par an.
Donc, 999 en Australie.
D'ailleurs, j'ai une bonne question pour vous. Ou en Floride. Non, c'est alligator,
les
Floride.
Ouais, les deux.
J'ai d'ailleurs une bonne question pour vous. Vous préférez vous faire défoncer par un requin ou un crocodile? Réfléchissez bien à la douleur.
Je préfère un crocodile parce
un requin,
tu te noies en même temps, c'est une galère.
Ouais, c'est galère.
Ouais, mais je crois requin, tu meurs plus vite qu'un crocodile.
Requin, tu meurs très très vite. Un croco, tu sais, ça te croque et ensuite ça tourne sur.
Je pense que
ça te disloque de ouf. Ça te disloque et t'as le temps de te.
Préfère le requin, Guillaume.
Requin pour moi et ma
requin.
Dorénavant, c'est requin.
Aurélien.
Ah, franchement, le crocodile, c'est quand même le truc le plus dinosaure qui existe.
Ah, c'est
flippant. C'est-à-dire que tout ce qu'il va te faire, ça va être préhistorique. Donc,
t'as pas envie.
C'est pas ouf.
C'est vrai.
Non.
Alors là, attention, c'est 10 000 morts par an.
Oh là là.
Wow. 10 000, ça devient très sérieux.
Oh, c'est les serpents, ça.
Quel animal, à votre avis? 10 000 morts.
Serpent, vous allez
être surpris, attention.
Les clébards.
Non, les clébards, j'ai tenu à ne pas le mettre dans le classement parce que c'est beaucoup trop mignon, un chien. Mais les chiens, c'est, figurez-vous que c'est 40 000 morts par an, les chiens.
Ouais, les accidents domestiques et tout.
Mais c'est dû à la rage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des morsures de chiens errants et la rage provoque.
C'est toujours les pas chauds sur les chiens, ils appellent les clébards.
Ouais, c'est ça, les clébs. Non, mais non, alors, 10 000 morts par an, à votre avis? Vous allez être surpris. Hein.
C'est un volatile?
C'est les insectes, non?
On peut dire que c'est un volatile.
Oui. Ouais, c'est la mouche.
Oh, Joe, bravo, c'est la mouche. Je rends compte qu'on fait un quiz sur les morts. Oui, 10 000 morts!
Qu'est-ce qui tue 10 000 personnes par an? C'est la mouche.
La mouche, en l'occurrence, la mouche tsetse.
Ah,
la mouche. Mouche qui sévit surtout en Afrique, qui ressemble un peu à un temps et qui pique, provoquant par la suite ce qu'on appelle la maladie du sommeil.
Voilà. Tu dors. Moi, je pensais que tu dormais, mais tu meurs aussi.
Bah oui, tu meurs, oui.
Ouais, tu meurs.
Ah, je pensais que
c'était juste mononucléose tranquille, toi.
Ouais, tu dormais. Ouais, voilà, c'est
un rhume.
Tu dors, quoi.
Avec 12 000 morts par an, on a un insecte que j'ai découvert en faisant mes petites recherches. C'est la Triatmoninae. Très dur à dire. Vous voyez les gendarmes, les insectes.
Ouais, ouais.
Enfin, les flics.
À cab.
Mais
oui, oh,
j'ai non, mais tu sais, dans ton jardin, on a tous des petits gendarmes, là, de rouge et noir.
On n'a pas tous un jardin, surtout.
C'est des evil coccinelles.
Ça ressemble à ça, sauf que c'est noir et marron. Et leur piqûre provoque la maladie de Chagas, essentiellement. Chagas.
Ok.
Tu deviens une grosse Chagas. Okay. La maladie de Chagas, ou Chaga, je sais pas, c'est H-A-G-A-S, essentiellement en Amérique du Sud et aux Antilles. Parasites, en fait, en gros, c'est les parasites qui s'introduisent à l'intérieur de vous et ça s'attaque aux muscles cardiaques.
Mais j'y pense en parlant de ça. Il y a forcément moustique au top de la chaîne.
Mais laissez-moi terminer cette chronique.
On
n'y
est pas encore.
Laissez-moi terminer cette chronique.
Le porte-trop,
c'est le quiz.
Ok, place au podium désormais.
Voilà.
Ah.
Donc le top 3.
Exactement. Avec à la troisième place un classique. Un classique.
Le serpent,
oui. Voilà, c'est le serpent qui cause 100 000 morts par an.
Après, quel serpent? Parce que ça dépend.
Dans plusieurs serpents, il y a le cobra, il y en a plein, etc.
L'anaconda.
100 000 morts par an. Il faut savoir que chaque année, 5,4 millions de personnes se font mordre par un serpent. C'est énorme.
Ouais, 5,4 millions
de morsures par an.
C'est énorme. Ouais, mais tu comptes les petites couleurs à la con et tout. Genre
c'est beaucoup. Et je crois, alors, je me suis pas renseigné, mais je crois qu'en France, un des animaux qui tue le plus, c'est l'araignée, la veuve noire.
Ouais.
On a des veuves noires dans le sud.
C'est dans le top, ça aussi?
Non, c'est pas dans le top, mais je sais qu'en France, il y a beaucoup de veuves noires. Ça fait flipper.
J'avais vu. Marvel, ça?
De quoi?
Je croyais que c'était juste un personnage Marvel, moi.
Ah, c'est une araignée, ouais.
C'est pour ça, par exemple, que je vais tous les étés, ma meuf dit, on va en Corse? Je dis, non, il y a des veuves noires, mais je sais pas.
Toi, tu iras pas en Australie.
C'est sublime, mais
tu veux pas aller en Australie,
mais jamais de la vie, je mets les pieds là-bas, mon pote. Australie, il y a des araignées qui font la taille du studio d'ici.
En Australie, parfois, je vois des vidéos YouTube de gens qui vont en Australie et ils filment leur salon et t'as une méga migale au plafond.
Mais bien sûr,
quoi.
T'as vu les mecs qui font un barbecue, ils ont une araignée géante qui fait la baie vitrée entière.
Non, c'est un enfer, c'est un enfer.
Jamais je fous les pieds dans ce pays, c'est hors de question. C'est un pays où tout veut te tuer.
Exactement, je suis d'accord avec toi.
Le boomerang aussi, il y a le boomerang.
Alors, et les Razorbacks.
Celui-là, c'est vraiment la grosse surprise de ce classement. Attention, hein, vous allez être sur le cul, les gars.
Ah, sur le cul.
C'est la grosse surprise de ce classement avec 200 000 morts par an, à votre avis. 200 000, c'est énorme.
Un animal gentil, normalement.
Hein?
Un petit animal gentil. Il est gentil.
Bah, franchement, deuxième place, c'est dingue que ce soit lui à la deuxième place.
Le lapin.
Non. C'est pas le lapin.
Le loup.
Joe, une petite idée?
Non. Je sais pas, le, non, l'ours? Non.
Ah, alors, figurez-vous que l'ours, finalement, c'est l'anti-star de ce quiz. Si je peux ça tue un quiz, pas tant. C'est que ça tue pas tant, l'ours.
D'accord. Voilà. Mais alors,
ça se bagarre.
Un animal surprenant, quoi, par exemple.
Ça, c'est, non, mais c'est surprenant. C'est, quand je vais te dire ça, tu vas te dire, attends, d'où il tue 200 000 morts?
Le cheval.
C'est non. Je vais te dire. Je vais vous dire. C'est l'escargot. Bah oui.
Oui, bah non, bah
à la deuxième place, l'escargot.
En fait, c'est les gens qui les mangent, qui font des indigestions alimentaires et qui en crèvent.
Pas du tout, je vais me rajouter l'escargot d'eau douce.
Ah,
qu'est-ce que tu racontes?
La censure.
Mais qu'est-ce que je raconte? C'est comme ça. J'ai travaillé mon sujet, tel un journaliste. Qu'est-ce que je te dis?
C'est la censure.
Bon, écoutez, je vais raconter. En gros, alors, l'escargot d'eau douce, ça veut dire que l'escargot d'eau douce est plus dangereux que le requin blanc déjà. Alors que c'est sous l'eau. C'est ça la grosse nouvelle.
Ce serait pas le même film.
La grosse nouvelle, c'est pas le même film, oui. Lorsque vous nagez dans une eau douce ou que vous mettez les pieds pour faire trempette, un escargot peut déposer sur vos pieds un parasite. Et ensuite, j'ai l'explication des symptômes. Je vais vous lire ça. La maladie se manifeste par une éruption cutanée, des démangeaisons, de la fièvre, des frissons, une toux, des maux de tête et des douleurs abdominales, articulaires et musculaires. Sa morbidité est essentiellement liée à l'étonnante fécondité du parasite femelle dont les œufs, pondus par centaines chaque jour, sont piégés dans de nombreuses muqueuses et tissus formant des granulomes qui, en se rompant, provoquent des hémorragies.
C'est pas du goûter, les granulomes?
Ce sont essentiellement les réactions aux œufs et non au parasite lui-même qui expliquent les symptômes des bilharziose. Et en gros, c'est des œufs qui se pond en vous comme
comment on l'attrape ça? En se baignant.
En se baignant dans l'eau douce. Ouais. Et je te signale que ce week-end, il y avait un ruisseau, tu voulais qu'on se baigne. Enfin, tu dis
Non, mais
tu voulais pas qu'on se baigne, mais t'étais en mode. Non, mais c'est tranquille de se baigner là-dedans.
Ouais, je me suis toujours baigné dans des ruisseaux.
Et attention à l'escargot, mon gars. Attention à l'escargot.
Alors,
si vous nous écoutez en France, rassurez-vous, c'est assez rare. Par contre, si vous nous écoutez en Afrique, faites quand même attention, car c'est souvent sur ce continent que cet escargot sévit. Voilà, l'escargot, deuxième place, 200 000 morts.
Incroyable, c'est
incroyable. Qui mange des escargots ici?
Moi, j'en ai mangé, moi.
Non. Moi, j'en mange des escargots.
Je t'entends, j'en mangeais.
Non, on n'aime pas ça.
Moi, j'en ai mangé une fois, puis je suis jamais revenu. Peut-être que je loupe un truc, parce que ça se trouve, mes goûts ont évolué depuis, hein, mais la première fois que j'en ai mangé, non.
Parce que c'est un truc très français, finalement, de manger des escargots, c'est comme les grenouilles. Je me souviens quand la première fois que j'ai mangé de la grenouille, enfin, que j'ai goûté, c'était à Montréal, et. Ouf, qui a déjà goûté de la grenouille?
Moi, j'en ai déjà mangé,
des cuisses. Ça m'avait pas laissé.
Ouais, j'en ai mangé.
C'est un peu comme du poulet, non?
Ouais, c'est du poulet.
Ouais, c'est ça, ouais. Et le dernier, le premier, on l'a dit, oui, voilà, c'est ça. À la première place, avec plus d'un million de morts par an, c'est énorme.
Il file Zika et tout.
Vous avez une idée, le moustique, bien sûr.
Le moustique tigre? Ou le moustique, genre moustique?
Bah non, mais les moustiques, tous les moustiques font chier.
Moustique de mort.
Insecte qui est à l'origine de plusieurs maladies bien connues. Et pour faire un parallèle qui nous intéresse aujourd'hui, sachez qu'un moustique tue en 24 heures plus d'hommes qu'un requin en 100 ans.
Ouais,
voilà.
Bah oui.
Donc c'est la conclusion de ce classement.
Mais d'autant qu'en plus, j'ajouterais à l'encontre de ces sacs à merde de moustiques.
On l'est.
Que en fait, contrairement à plein d'animaux qui font chier mais qui servent à quelque chose, le moustique sert à rien. Il a vraiment aucune utilité.
Alors j'ai lu un interview. Alors vous avez tous entendu
s'il y avait plus de moustiques, le monde s'en porterait pas plus mal.
Bah pas pour Émeric Caron.
Ah oui, non, mais il nous fait chier.
Non, mais qui avait fait un interview où il disait quand un moustique est dans la pièce, il faut le laisser. Faut qu'on permette aux moustiques de nous faire piquer comme ça parce qu'il a des enfants à nourrir.
Ouais, donc voilà, super.
J'ai pas suivi son conseil du tout.
En fait, je crois que c'est que quand ils sont en période où ils piquent et tout ça, c'est plutôt que c'est des femelles
en chaleur.
Ouais, pas en chaleur, mais qu'elles sont en train de féconder et qu'elles elles ont besoin de.
Je m'en bats les couilles, Guillaume.
Alors, moi, j'ai une question pour vous. Quand vous avez des parasites chez vous, par exemple, vous les tuez ou vous en faites?
Non, alors moi, je ne tue aucun insecte.
Sauf le moustique.
Aucun animal. Le seul avec lequel je me permets, c'est le moustique. Je les hais.
Oh non!
Je les hais.
Mais t'as raison, ça sert à rien. Non, franchement, les moustiques. Autant les araignées, tu vois, par exemple, ça fait flipper les araignées. Moi, je suis un petit peu arachnophobe.
Tu les tues, les araignées.
Mais je le regrette. C'est-à-dire, je sais que mais ça sert à quelque chose, tu vois. Alors que le moustique, mais jamais je vais regretter d'éclater un moustique. Jamais de la vie.
J'ai la phobie des guêpes et des frelons, et si c'est un one-one, bon, bah, je les tue, par contre.
Ok.
Oh non.
Non, mais là, vous êtes marrant et tout. Moi, il y en a un, je le prends, je le mets dehors. Mais vous avez déjà eu des infestations de fourmis?
Ah non, mais
fourmis,
ça,
non, fourmis, non, faut pas les tuer.
Ah ouais, non, mais là, mec, quand t'as 500 fourmis dans ton salon, tu peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas dire, rentrez chez vous. Tu es en train de bouffer.
T'installes un petit parcours, tu vois, un petit.
C'est l'enfer.
Sans oublier que dans ce genre de classement, il est souvent mentionné que l'animal qui tue le plus d'hommes sur une année, eh bien, c'est l'homme, tout simplement, avec plus de 400 000 victimes.
Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme?
Oh là là là.
Exactement, c'est la belle conclusion de cette chronique. Alors là, je viens de dresser une liste d'animaux dangereux.
Alors que le loup est même pas dans le top.
Mais le loup, il était dans les premiers, genre, c'était 100 morts.
Ah oui, bah voilà,
c'est Aurélien est un loup pour les fourmis, on vient de l'apprendre. Il a fait un génocide chez lui. C'est ça qu'il
voulait dire. Je les ai cramés, là.
Alors là, je viens de dresser une liste d'animaux dangereux. Est-ce que vous avez un animal comme ça, tueur ou pas, ou un insecte qui vous fait hyper peur? Joe.
Bah, les araignées.
Les araignées,
complètement
arachnophobe. Toi, arachnophobe à fond.
C'est un peu comme les requins, c'est-à-dire que ça me fascine. J'adore les araignées dans les films, dans les jeux vidéo et tout. Quand t'es un boss, c'est une araignée géante. J'adore. Mais en revanche, tu me fous une araignée. J'ai une anecdote pourrie qui vraiment révèle beaucoup de la piètre personne que je suis. Mais dans mon premier appart avec une ex d'il y a très longtemps, il y avait une araignée. Et j'avais dû appeler mon père. J'avais fait croire que j'avais un problème avec la machine à laver pour qu'il vienne à la maison. Il a fait quelques kilomètres. Il est venu. Je fais, en fait, non, il y a une araignée. Si tu peux m'en débarrasser, s'il te plaît. Parce que je n'osais même pas l'approcher.
Elle était grosse ou?
Ouais, c'était une, je sais plus comment ça s'appelle, ces araignées de jardin, là, les saloperies, là, un petit peu poilues. Non, les faucheux, ça me fait pas peur. C'est pas des araignées. Mais, une épaire. Araignée épaire.
Ah ouais.
Okay. C'est vraiment une saloperie, quoi. Toi, non, ça va vite. Alors, ça m'angoisse.
Toi, Guillaume, je crois que c'est les souris, hein. Non?
Ouais, moi c'est plutôt je suis pas très avec les rats, les chauves-souris, tous ces trucs là. Moi les trucs un peu rongeurs là, c'est pas trop mon délire. Les hamsters ça va, couche je suis tranquille, mais alors les rats, le rat, je pense qu'il y en a un chez moi, je déménage. Ça, genre, tout simplement, je lui laisse l'appart. Tout bonnement. T'as gagné. Allez, salut.
Ça c'est le bail.
Installe-toi.
Les souris ça va, mais alors les rats, bof,
je suis pas à l'aise. Est-ce que toi
comme Indiana Jones?
Moi ouais, je crois que c'est le nom en fait. Tu vois, genre en one, je pense que ça va, tu vois, à part si c'est un truc plus gros que moi, tu vois. Mais par contre, le nombre, ça me fait flipper. Tu vois, genre, quand ils font Fort Boyard et tout, là. Que s'il y avait un seul serpent, je dirais rien. Ou s'il y avait, genre, un seul truc, tu vois.
Comme la scène dans Indiana Jones 2 quand ils sont enfermés à l'intérieur du.
C'est ça. Moi, ça me fait flipper. Tiens, on parlait des trucs qui peuvent faire flipper et tout. Là, quand, tu sais, dans le 2, quand ils marchent et qu'ils disent, oh, on dirait des gâteaux secs. Ouais. Là, ça, je veux dire, des gâteaux secs. Maintenant, à chaque fois que je marche dans un truc, c'est un peu noir, je regarde toujours par terre.
L'actrice qui avait joué la scène, elle avait demandé du Valium pour jouer cette scène.
Non, ça fait peur de ouf. Ça, tu vois, même les serpents dans le premier Indy. Genre autant de serpents, tu vois, et d'être obligé de regarder un peu partout, tu sais, il y en a pas un qui va arriver. Ça, moi, c'est le nombre, tu sais, mais ça me fait pareil avec les humains, tu vois. J'ai plus peur de plein de gens qui arrivent sur toi et tu peux plus rien faire, en fait.
Quand j'étais un été, ma sœur, elle avait regardé Angélique, Marquise des Anges, je sais pas si vous voyez ce truc.
Ouais.
À un moment, elle est enfermée dans une salle avec plein de chats. Ouais. C'était mon méga stress pendant tout l'été après.
Ouais. Ah, mais c'est pour ça que t'aimes pas les chats, finalement.
Je déteste les chats. Non, les chats, ça va. Non, je déteste. Non, entre les deux. Un peu peur, quoi.
Ils sont entre les deux vis-à-vis de toi. Et toi, c'est quoi, JB?
Moi, c'est les guêpes et les frelons, je disais juste avant. Ouais. Ça me fait vraiment peur, quoi. Guêpes. Après, tu sais, araignées, serpents, tout ça, ça me fait flipper, je pense.
Après, mais... frelons, il y a personne qui se dit, oh, frelons!
Ouais, non, c'est
trop mignon.
Le bruit fait peur.
Je déteste ça. Alors, j'ai mentionné son nom un peu plus tôt dans l'émission. Si les dents de la mer existent, c'est grâce au talent d'un écrivain nommé Peter Benchley. Aurélien, qui est Peter Benchley et comment ça s'est fait, cette transition entre le livre et le film?
Eh bien, Peter Benchley, c'est un mec qui vient d'une famille d'auteurs, en fait, on peut dire. Son grand-père était un auteur déjà, un comique, enfin un comédien.
Un petit comique, hein, il faisait rigoler les gens, quoi, il faisait des petites blagounettes.
C'est juste qu'à l'époque, on ne sait pas trop, tu vois, il faisait des essais. En fait, il a carrément monté un club, le mec, qui s'appelait La Table Ronde. Attends, j'ai marqué, mais j'ai... De Al Gokin. La Table Ronde d'Al Gokin, qui était en fait un hôtel qui était à New York, je crois, dans laquelle se retrouvaient un peu tous les gens de Broadway, notamment, qui écrivaient un peu des pièces caustiques et des comédies musicales. Et donc, on est au début du 20e siècle. Et dans ce club, quand même, qui a vu plein de gens, des membres officieux et officiels, dans les membres officieux, on retrouve Mankiewicz, Herman, tu vois, par exemple, le scénariste, ainsi que le fameux dont notre ami Fincher a fait un film, Mank.
Ouais.
Et puis aussi Harpo Marx. Je savais que ça allait te plaire, ça.
Ah oui, effectivement.
Voilà, donc on voit que, tu vois, son grand-père déjà était un mec connu. Et son père était aussi un mec connu, enfin en tout cas un auteur, qui a écrit énormément de livres, notamment des livres pour enfants. Et il a notamment écrit énormément de livres pour expliquer les animaux et la nature aux enfants. Et c'est de là que vient un peu les deux, on va dire, les deux influences et les deux préceptes de notre ami Peter, donc le troisième à devenir auteur. Comme c'est son père et son grand-père, il a fait des grandes études, il a été à Harvard, bon, ça va. Ça va pour lui.
Moi, j'étais au mieux, ouais.
Collège,
moi, en tout cas.
Collège Liberté à Drancy, personnellement.
Et très tôt, je pense, justement, parce qu'il a vu son père et son grand-père écrire, il s'est retrouvé à écrire des livres. Genre, juste après ses études, il a fait un tour du monde, le mec. C'est cool pour lui. Et il a écrit, en fait, ses mémoires de ce tour du monde. Qui okay. s'appelait genre un an et un ticket, je crois, en gros. Et beaucoup, il explique tout ce qu'il a compris et tout ce qu'il a vu.
En gros, il a serré une meuf en un an, ça veut dire.
Ouais, je sais pas ce qu'il a foutu.
Ah non,
ouais,
je pense à un ticket, yes.
C'est ça. Et donc là, on arrive au début des années 60. Pour expliquer un peu le contexte, c'est donc un mec. Est-ce que vous aviez un bar ou un pub qui s'appelait le Nantucket, vous, dans votre ville?
Pas du tout.
Non.
C'est moi, à Orléans, c'était un spécialiste et il y en avait partout des Nantucket, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que Nantucket pour le coup?
Mais c'est une ville, non? Nantucket. C'est au large de Boston, non?
Exactement, ouais, voilà, c'est une île qui est au large de Boston et en fait, Peter et toute sa famille ils passaient tous leurs étés à Nantucket. Et donc, il était très, très proche de la mer et très proche de l'univers des fonds sous-marins. C'est un truc qui l'a toujours passionné. Et donc, très tôt, il avait l'idée de peut-être être journaliste et auteur, romancier, autour de la faune et la flore de l'océan et de ce qu'il y avait autour. Et donc, après avoir eu ses diplômes, il devient reporter. Reporter pour le Washington Post. Ça pourrait être plus pourri quand même.
Pas mal.
Donc, il s'installe à Washington.
De toute façon, tout se passe bien pour lui.
Ouais, bah, je pense que dans sa famille, ça allait bien,
tu vois.
Il fait des allers-retours. Il dit même qu'il a vécu sur une île à un moment, pas très loin de Nantucket, justement. Tranquille, la life, tu vois.
Est-ce que sa vie est mieux que la nôtre pour l'instant?
Bah, pour l'instant, c'est bien pas mal. Hein.
Et en plus, il est BG, ce con.
Ouais, ouais. Il est pas mal.
C'est vrai, il est bien fait de sa personne.
Et donc, il fait un peu de Washington Post, là, pendant 2-3 ans, je crois. Après, il commence à écrire pour la télévision, pour le magazine Newsweek. Dans lequel son père travaille déjà. Bon, il y a un peu de copinage, mais bon, bref, il arrive quand même à avoir 3-4 ans où il écrit et réalise pour la télévision. Et là, truc de ouf, il devient le mec qui écrit les discours de Lyndon Johnson, le président des États-Unis, tranquillos.
Quelle vie!
Donc, de 67 jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à forcément, il se fait virer par Nixon, je crois, qui arrive. Et donc, forcément, il ne va pas écrire les discours de Nixon. Donc, au début des années 70, il se retrouve un peu freelance. Et il a un peu ses travaux comme ça, il écrit à droite à gauche. Et en fait, pendant toutes les années 60 où il travaillait en tant que reporter, il a pu suivre notamment National Geographic dans plusieurs de leurs expéditions. Et il avait deux idées de livres qui l'ont porté absolument tout le temps. Un livre sur les pirates. Voilà, il voulait faire un livre sur les pirates sur une île et des gens qui étaient kidnappés par des pirates sur une île dans le 18e siècle. Il avait ce projet de bouquin pendant toutes les années 60. Et un deuxième livre qu'il avait en tête depuis 1964 qui venait de en fait un fait divers qui avait eu lieu à Long Island, donc vraiment le bout de l'île de New York, là où il y a les Hamptons notamment.
1916, assez connu.
Non, pas du tout. C'est un truc qui a eu lieu en 1960. En 64, justement, il lit le fait divers. Et en fait, c'est des pêcheurs de Long Island qui ont ramené un requin au large des côtes de New York de plus de 2 tonnes. En 64, tu vois. Et il avait ce truc en tête en se disant, genre, mais attends, ça veut dire qu'il y a vraiment des requins qui sont tout près des côtes américaines.
Ah, parce qu'en fait, moi, j'ai lu un truc où, ouais, en 1916, après, il y a un jeune garçon, ouais, c'est ouais. Ça. Un jeune garçon qui a été tué par un requin.
Plusieurs attaques de Jersey Shore.
Ouais, exactement. C'est le fameux truc de Jersey Shore, donc, qui existe en 1916, qui est un peu la grosse anecdote de base, mais ça l'a relancé qu'en 1960, ils disent, en fait, on en trouve encore. C'est-à-dire qu'ils pensaient que, tu vois, avec les changements, je sais pas, qu'il y ait plus de population et tout, que les requins avaient complètement disparu. Et donc, c'est vrai que son histoire de livre, elle vient de ces deux trucs. C'est-à-dire à la fois le grand fait divers de 1916, où je crois que c'était vers Montauk. Ouais. Il y a eu vraiment, je crois, 4 morts, plein de blessés, avec des vraies attaques de requins sur les plages. Et donc, ce truc où en 1964, il apprend qu'il y a encore des gens qui ont pêché. Et d'ailleurs, il avait pris un des pêcheurs comme un peu modèle de son pêcheur numéro 1, tu vois, dans le livre. Alors, il commence à écrire le livre en 71. Il écrit un premier truc. On aime bien l'histoire. Donc, il y a une première... un premier éditeur qui lui propose de la thune. Il l'apprend, bien sûr. Il fait un premier draft et c'est nul. L'éditeur lui dit non, mec, faut tout refaire là, ça va pas et tout. Enfin, c'est très à charge contre l'humain et en même temps contre le requin. Il dit, en fait, on a l'impression que tout le monde est mauvais dans ton livre, ça va plaire à personne, tu vois. Donc, il refait un truc, il essaye d'être un peu plus cool, notamment dans les personnages. C'est toujours très dur, mais il décide de l'éditer. Ça sort donc l'été 1974 et c'est un succès incroyable.
D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais lu une interview de Spielberg qui disait que...
Lui, je vais le dire.
Ah bah voilà, ah, allez, voilà, vas-y.
Et c'est incroyable justement parce que donc ça devient un truc énorme. Tout le monde le lit, tout le monde le kiffe et tout. Et c'est là que le découvre justement Spielberg. Et je pense que c'est ça que tu voulais dire. Quand il a découvert le bouquin, il trouvait l'intérêt. Donc le livre, Jaws, apparemment 4 lettres, ça l'a rendu ouf. Et vraiment, il s'est dit, il y a un sujet avec la peur. Mais par contre, il trouvait que tous les personnages étaient bad. Mauvais.
Exactement.
Genre, il trouvait, il y avait aucun feeling.
Et en gros, il disait, du coup, on est pour le requin. Dans
exactement. Il disait, j'aurais préféré que le requin les bute tous à la fin, tu vois. Donc, il dit, c'est bizarre. Donc, mais il achète quand même les droits du livre. Il rencontre Peter et lui dit, j'ai envie de faire un film avec ton livre. Ils se mettent d'accord. Il dit, bah, ok, je veux bien, co-écrire le scénario avec toi pour bosser sur le film. Mais ça se passe pas super bien. Parce qu'en fait, justement, Spielberg, il veut changer absolument tout dans le livre, notamment les personnages, qu'il a complètement changé. Il va même carrément dire à Richard Dreyfuss, ne lis surtout pas le livre, ça n'a rien à voir. J'ai pas envie que tu aies ça dans la tête parce que je veux complètement changer, en fait, même la narration et la façon de faire. Et donc, il y a John Milius, notamment, qui va venir l'aider. Le mec qui a écrit Apocalypse Now en grande partie, enfin, en tout cas, les scènes de surf, notamment, vu que c'était un grand passionné de surf, et le mec qui a après réalisé Conan le Barbare, donc un mec un peu chaud. Patate, qui a notamment travaillé sur le personnage de Robert Shaw, et notamment ce fameux monologue où il parle de l'USS Indianapolis, si je ne me trompe pas, une grande histoire où ils sont sur le bateau, un monologue de fou, ils racontent des histoires fous. Ça vient plutôt de John Milius, et toutes ces choses-là, il les a rajoutées au fur et à mesure dans le scénario. Et Peter, forcément, il n'était pas super content. Il apparaît quand même dans le film. On le voit en tant que reporter. Ce qui est marrant, parce que ça faisait un peu un clin d'œil sur qui il était vraiment, tu vois. Mais il y a eu un gros clash à la fin du film, parce que, pour le coup, Peter voulait garder la fin de son livre. C'est-à-dire, normalement, bon, voilà, on l'a vu, on peut spoiler.
Je l'ai lu.
On peut spoiler, normalement, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui s'en sort, et il s'en sort plutôt mal, et il n'y a pas du tout de côté spectaculaire. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'attaques qui fait que le requin, on estime qu'il meurt dans l'eau et qu'on ne le revoit plus. Mais il n'y a pas le côté spectaculaire de la bonbonne de gaz, l'explosion et tout, ça n'existe pas. Et surtout, le pauvre Richard Dreyfuss meurt dans le bouquin.
Oui,
en fait,
il s'est bouffé.
Il se fait totalement bouffer. Donc c'est beaucoup plus... Enfin, les personnages sont beaucoup plus rudes, c'est beaucoup plus à charge contre l'humanité en général, contre les fonds marins. Et Peter était contre l'idée de Steven de rendre le truc très spectaculaire à la fin. Parce qu'il trouvait ça pas réaliste. Il disait, c'est impossible de foutre une bonbonne, de plonger dans la bouche du requin et tirer. Désolé, on spoil à fond si vous avez pas vu Les Dents de la Mer, mais bon, là, il va falloir regarder si jamais vous voulez écouter ce podcast. Et donc, il lui a carrément demandé de quitter le plateau, parce qu'il considérait que son film n'avait plus rien à voir avec ce que le livre voulait dire dans l'esprit. Et en fait, ça a vachement marqué Peter, qui justement après, tu en as parlé, a tout fait pour changer l'esprit du requin, parce que là, il y avait tellement un délire de se battre contre une sorte de monstre difforme, alors que dans le livre, c'était a priori, je l'ai pas lu, mais c'était a priori un petit peu plus contrasté. Il y avait un côté un peu comme chez Melville avec Moby Dick, quoi. C'était un peu une guerre contre toi-même. Il n'y avait pas ce côté très sanguillonnant du requin, tu vois. Et donc, ils vont plus jamais bosser ensemble après, sauf que cet ami Peter, il a quand même des droits sur Les Dents de la Mer, donc il va prendre de l'argent sur absolument tous les films de la franchise, ce qui va lui permettre pendant 10 ans de vivre tranquillos et de faire ses propres projets. Mais il a quand même sorti 3 autres bouquins après qui ont été adaptés en film, notamment un qui est assez cool, que j'ai vu il y a pas très longtemps, fortuitement. Il s'appelle The Deep en anglais. C'est avec Ving Vaughn et Jacqueline Bisset, la française. Et en gros, c'est encore une idée qu'il a eue suite à un reportage qu'il a fait avec National Geographic, où il avait suivi une équipe qui avait plongé pour aller voir des épaves de galions du XVIIe siècle. Et là, en gros, l'histoire est très simple. C'est un couple qui décide de plonger sur une épave qu'ils ont découverte au large des Bermudes, je crois. Et en fait, ils tombent sur une bande de braqueurs pirates méchants qui décident de les utiliser pour aller faire les plongées, pour aller chercher les trucs à leur place.
C'est quelle année, genre, ce film, à peu près ?
C'est juste après, c'est en 78, je crois.
En tout cas, okay. Le bouquin
est il a fait son truc de pirate, finalement. C'est des pirates modernes, mais
il l'a fait aussi. Fait un petit peu, mais il en a refait un autre après, justement, qui est avec des vrais pirates.
Des pirates
pour ouais. C'est, le bouquin s'appelle The Island, et je crois que le film aussi.
Okay.
Et c'est du pur pirate. Ça se passe sur une île, et c'est pareil, c'est des pirates dans le même genre. C'est-à-dire que les deux idées qu'il avait dans les années 60, les idées de sa life, il en a fait quand même trois bouquins et trois films.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours relié à l'eau, finalement.
C'est vrai. Et après, comme tu dis, il a passé beaucoup plus de temps, après tous ces films et ces bons bouquins, à bosser sur la conservation des océans. Et après, il a fait énormément de prévention, notamment autour des requins. Il a fait beaucoup d'émissions, notamment avec National Geographic, mais avec plein d'autres organisations pour donner envie aux humains de préserver leurs fonds marins et de tous les gens qui habitent dedans.
Un chic type en somme, ce Peter Benchley.
Ça va, Peter, il est plutôt cool.
Il y a eu un petit parcours de petite cuillère en argent dans la bouche quand même.
Ça,
ouais,
mais ça,
ouais, mais il s'est bien rattrapé. Il est allé chercher tout ce qu'il a obtenu.
C'est vrai.
Est-ce que vous avez des souvenirs d'expérience reliant un livre et son film? Par exemple, moi, je me souviens qu'ado, j'avais lu The Running Man après avoir vu le film avec Schwarzy, et j'avais trouvé ça génial. C'est ce qui m'avait donné envie de poursuivre par la suite cette prolongation qui te permet de prolonger l'univers du film en le redécouvrant d'ailleurs très souvent. Joe, est-ce que tu as eu des des expériences film-livre qui t'ont marqué?
Y a Les Dents de la Mer, ça en fait partie.
Okay.
C'est-à-dire, moi, j'ai au fil du temps, j'ai vu, comme je le disais au début de l'émission, Les Dents de la Mer très très tôt, mais c'est resté un marqueur hyper fort de toute mon enfance, à tel point que je me souviens qu'en troisième, j'avais rencontré un autre mec avec qui on était devenu hyper potes parce qu'il était hyper fan des Dents de la Mer aussi, et on s'était carrément fait des cassettes audio du film. C'est-à-dire qu'on écoutait le film au Walkman
cool.
Et on se faisait des concours de dialogue des Dents de la Mer et tout. Enfin, c'était vraiment une obsession. Et un été, j'étais allé en vacances chez mes grands-parents et à la bibliothèque de la ville, il y avait Les Dents de la Mer.
Ah ouais.
Et je m'étais dit, ok, je vais lire le livre, qui est très très différent du film, effectivement, dans le ton et dans la manière dont ça dépeint les personnages et tout. Il y a de la mafia, il y a plein d'histoires un peu sordides et tout. Effectivement, le personnage de Richard Dreyfuss fait cocu le personnage de Brody avec sa femme et tout. C'est vraiment, tout le monde est un peu dégueulasse là-dedans. Ouais. Et il y a un côté vraiment mythique du requin. C'est-à-dire que c'est presque une force, une sorte de force de la nature qui est là pour foutre les gens dans la merde, mais ça a pas le côté aussi agressif de on dirait plus une catastrophe naturelle en fait dans la manière dont c'est traité dans le livre et je l'ai lu un été en vacances à Saint-Jean-de-Luz
alors ça c'est les meilleures conditions parce que moi j'ai une version livre des Dents de la Mer 70-80 et je l'avais lu il y a 2-3 ans sur la plage en Bretagne l'été. C'est vraiment les meilleures conditions pour lire ce livre, quoi.
Mais grave, c'est trop bien. Et effectivement, moi j'ai adoré cette expérience film livre parce que étant donné que j'étais vraiment passionné du film et qu'à l'époque tu sais quand t'es gamin ou préado tu te renseignes à fond, t'essayes de savoir tout. En fait, le livre, ça faisait même si c'était pas ça a clairement pas eu un impact sur moi comme le film a pu en avoir un, ça avait permis de créer une sorte d'extension et de comme quand t'aimes un truc, un personnage et que tu vois une nouvelle variation sur le même thème et tout, ça t'apporte un nouveau niveau de lecture j'avais vraiment adoré. Alors que en vrai, je suis pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre de la littérature. Si tu veux, c'est un premier roman. Je suis sûr qu'il y a plein de. Je le relirais aujourd'hui. Je trouverais plein de longueurs, plein de passages un peu, tu vois, bizarres. Mais à l'époque, je sais que ça avait vraiment eu un impact. C'était une vraie expérience.
Guillaume, un souvenir comme ça de livre-film.
Livre-film, à fond, je pense à ça de Stephen King.
T'as lu avant ou t'as vu le film?
J'ai dû le voir avant et lire le livre après.
Ok, parce que c'était beau pavé, je crois. Il y a deux, trois livres.
Beau pavé.
Ça,
hein. Je suis même pas sûr d'avoir lu le troisième. J'ai dû lire le premier.
Je crois qu'il y en a deux.
Ouais, il y en a deux.
Ça dépend des éditions. T'en as trois et ensuite ils l'ont mis en deux.
Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pendant que tu parlais, on disait que ça donnait, enfin, tous les trucs qui nous ont pu nous faire peur enfant et après on avait un petit traumatisme. Je pense que ça a pas aidé. Ma vision des clowns.
Ouais,
ça n'a pas dû aider les clowns non plus au cirque, tu vois, parce qu'on parlait des requins, mais les clowns.
Puis personne n'a essayé de les préserver après en faisant. Les clowns, attendez, il faut être sympa avec les clowns.
On n'en a pas parlé, mais les clowns, effectivement. Ouais.
Ils en ont pris pour leur grade. Et sinon, récemment, j'ai lu quelques fois, j'ai comme une grande idée, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, j'avais trouvé ça génial, et j'ai regardé de Ken Kesley, qui avait aussi écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et du coup, le livre m'a tellement plu que j'ai vu qu'il avait été adapté en film par Paul Newman et avec Paul Newman. Et du coup, c'était trop cool parce que genre je venais de le finir, j'étais à fond dedans et je l'ai regardé le lendemain. Du coup, j'avais tous les détails. C'est trop bien toujours de revoir un lieu que tu t'es imaginé, de le voir en film.
Ça c'est cool.
T'as l'impression que ça devient réel quoi presque.
Ouais.
Alors après ils ont pris grave de liberté avec l'histoire, mais je trouvais ça vraiment cool.
Aurélien,
je crois en fait. Eh bien moi je cherchais en même temps là, j'ai pas trop trouvé, mais moi aussi j'avais lu. Running Man de Richard Bachman.
C'est pas du tout la même histoire là.
Ouais, c'est trop bizarre, c'est complètement autre chose et tout. J'avais bien aimé les deux. Après, je sais pas, plutôt...
L'expérience qui est cool aussi, c'est de voir le silence des agneaux et de lire le livre.
Ouais.
Là encore,
ouais.
C'est pas la même histoire.
Ouais.
Non, sinon, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais voilà, c'est plus des bandes dessinées, quoi.
Ouais.
Ah oui, aussi.
C'est assez marrant, comme le silence des agneaux, d'ailleurs, est assez différent du film, et les livres qu'il a écrits après, donc Hannibal, les origines et tout, sont beaucoup plus similaires au film parce qu'ils ont été écrits dans l'optique d'en faire des films
sur
des lignes de commande.
C'est vrai qu'il y a une influence.
D'ailleurs, c'est pas une franchise dont je suis fan, mais effectivement, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais au collège.
Ah ouais, moi aussi. Ouais.
Je l'avais lu au collège.
Ah bah voilà.
Et après, t'as cette adaptation, bonsoir, en film. Qui est pas mal.
Exactement. Et t'avais lu Le Hobbit et tout, ou juste.
J'avais lu Le Hobbit en 6e, mais c'était en cours. C'est-à-dire, elle nous avait donné ça à lire.
Ah ouais, c'est cool de lire ça. Le Hobbit.
Le Hobbit, il y avait le Hobbit au programme, ouais, avec ses pieds poilus et tout là.
Ouais.
Bonne ambiance de lire ça.
Ouais, bonne ambiance.
Ouais, c'est cool.
C'est mieux que Zola, quoi. Enfin, ouais. C'est mieux.
Non,
quand t'es en sixième, tu préfères lire Le Hobbit.
Dites-nous sur Twitter si le Hobbit ou Le Hobbit, c'est mieux que Les Misérables. Même pas.
Mais Les Misérables, c'est Victor Hugo.
Ah, le bouffon.
C'est pas la joie.
Je l'ai dit trop vite.
C'est pas la joie.
Tu vois ce que je veux dire, quoi.
Germinal.
Ouais, Germinal, quoi.
Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur les dents de la mer.
C'est marrant, croustillante, parce que ça, c'est bien en rapport avec le film.
Exactement. Alors, mettez vite une parka et un gros pull, car ce que je vais vous raconter risque que de vous souffler.
Oh, je croyais que t'allais dire, ça va vous faire froid dans le dos, pas mal.
Ah, ça va vous souffler, ce que je vais vous raconter.
Ah, ça souffle.
Alors, au début du film, une jeune femme meurt après un bain de minuit. Le lendemain, son corps, ou du moins ce qu'il en reste, est découvert sur la plage. On aperçoit alors une main qui dépasse du sable. À la base, cette main était une fausse main, mais elle paraissait tellement fake et cheap aux yeux de Steven Spielberg qu'il décida d'enterrer sous le sable une partie du bras d'une technicienne qui bossait sur le film. La main qu'on voit à l'écran est donc une vraie main.
Très bien.
Une technicienne. C'est-à-dire qu'elle peut se targuer de dire c'est ma main dans les dents de la mer.
Ça, j'ai joué dans les dents de la mer.
Non, mais le pire, c'est qu'en plus, il y a des petits crabes qui lui grimpent dessus et tout. Genre, moi, jamais j'aurais dit, bah non, on veut déverter avec ta main en plastoc à la con.
Et d'ailleurs, quand on observe la scène, on voit que la main bouge un peu. D'ailleurs, les doigts bougent un petit peu. Donc, je pense qu'elle était peut-être en panique de tous les crabes.
Tu m'étonnes, c'est clair.
Ouais, hyper cool.
La célèbre réplique « You're gonna need a bigger boat », en français « Vous allez avoir besoin d'un plus gros bateau », n'était pas prévue dans le script. C'est l'acteur Roy Scheider qui l'a improvisé durant la prise. Et ça, c'est assez incroyable parce que finalement, dans l'histoire du cinéma, il y a plusieurs répliques comme ça, devenues cultes, qui ont été improvisées. Je pense à « You're talking to me » de Robert De Niro.
Ouais.
Donc là, on a quand même deux répliques qui n'étaient pas scriptées et qui sont devenues cultes. C'est assez incroyable. On parlait plutôt de l'importance de John Williams dans ce film. On connaît tous désormais ce fameux thème, etc. Il s'agit là d'une répétition de deux notes, je disais tout à l'heure, mi et fa. Et lorsque Williams proposa à Spielberg ce thème, il lui répondit « C'est une blague, j'espère. Juste, c'est ça que t'as fait, quoi. T'as juste fait deux notes, là, je t'ai payé une blinde. » Et finalement, aujourd'hui, c'est tout simplement culte. Il s'est laissé convaincre, Spielberg. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure du personnage de Quint, Aurélien.
Robert.
Avec son monologue.
Ouais.
À la base, ce personnage aurait dû être introduit dans le film de façon complètement différente. On aurait dû découvrir Quint au fond d'une salle de cinéma, en train de regarder Moby Dick et en train de se taper des barres devant des scènes de Moby Dick qui étaient mal faites. Mmh. C'est comme ça qu'aurait dû être introduit le personnage de Quint. Alors, Steven Spielberg a contacté Gregory Peck, l'acteur, parce que c'était Peck qui détenait les droits de Moby Dick, il jouait dedans, et Peck a refusé. Ça me fait penser à Willow. Peck, 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 peck. Et Peck a refusé parce que...
Qu'est-ce qu'il a dit, Peck? Il a dit non.
Et en gros, Gregory Peck a dit non parce que c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il a dit à Spielberg, je me trouve nul dans ce film. Donc, j'ai pas envie d'être nul dans Des Dents de la Mer également, quoi. C'est relou. Tu vois. Donc, il a dit non.
C'est fou, ça.
Bah ouais, c'est incroyable. Sur le tournage, Steven Spielberg avait donné un prénom au requin, à savoir Bruce, prénom qui était également celui de son avocat à la même époque. Voilà la raison.
J'adore.
C'est assez drôle.
Très bonne anecdote.
À la base, Spielberg voulait l'acteur Charlton Heston pour jouer le rôle du héros, celui de Martin Brody. Mais finalement, après réflexion, il s'est dit que c'était une mauvaise idée puisque à cette époque, Heston avait l'habitude de jouer les sauveurs dans des films comme 747 en péril ou encore Tremblement de terre. Mmh. Ce qui aurait poussé les spectateurs à se dire « Ah ok, on sait comment ça va se terminer ». Charlton Heston lui en voulu jusqu'à la fin, refusant de jouer par exemple dans 1941, alors que Spielberg lui avait proposé un rôle. Il était très amer, Charlton Heston. Ouais. Mais on sent que c'était un gars qui était un peu...
Ouais.
Un peu...
D'ailleurs, je crois que c'était pas le président du lobby des armes chez les acteurs.
C'est toujours.
Ouais, c'est toujours lui, président de la NRA.
Enfin, si, il est vivant, ouais.
Non, il est décédé, je crois.
Ah oui, il est décédé. Bah, écoute.
Ouais.
Mais c'est un immortel, tu sais, du cinéma.
Ouais, c'est vrai.
Délire.
Il est au Panthéon.
Le chien de Brody, qu'on voit dans le film, Bah, c'était à l'époque le chien de Steven Spielberg, prénommé Elmer. Voilà, donc on peut voir son toutou dans le film.
Oh, Elmer.
C'est plutôt pas mal. Durant la première scène, à la plage, on entend une musique. Eh bien, celui qui joue la clarinette n'est autre que Steven Spielberg lui-même, qui est un fan de cet instrument et qui sait en jouer depuis l'enfance. Donc, les petites notes de clarinette, c'est Spielberg qui les joue.
Pas mal, quoi.
Ça, c'est cool. À la base, Richard Dreyfuss a refusé de jouer dans le film. Et l'excuse qu'il a donnée à Spielberg était « C'est le genre de film que j'ai envie de voir, mais j'ai pas envie de jouer dedans. » Finalement, Spielberg parvint à le convaincre quelques semaines plus tard. C'est assez cool quand t'es à un stade de ta carrière où tu peux permettre de dire à Spielberg, bof, ta proposition, non, mais pas trop.
Moi, j'adore Dreyfuss, mais quand je regarde les interviews et tout, j'ai l'impression qu'il se la raconte fort.
Ouais,
mais je l'adore.
C'est une grande gueule, quoi. Ouais. C'est une grande gueule, tu sens qu'il aime bien, mais bon. Moi,
on l'adore, Roy Scheider.
Moi aussi, je l'adore de fou, mais. Ouais.
Par contre, Roy Scheider, lui, a eu le rôle de manière assez drôle. En gros, il était à une fête dans laquelle était. Durant laquelle participait Steven Spielberg également. Et il voit comme ça Spielberg en train de parler de son film. Il l'a pas encore réalisé, il va le réaliser. Et il parle avec un convive et il dit oui, puis à un moment donné, il y a une scène où d'un coup, un gars balance de la viande dans l'eau, puis on voit la tête du requin et c'est la première fois qu'on le voit dans le film, etc. Roy Scheider entend ça et il va voir Spielberg et lui dit mais je veux trop jouer ce personnage en fait. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle, sauf que Spielberg lui a dit ouais, mais non, on pense à Charlton Heston, donc ça va pas vraiment se faire. Et quand il s'est dit Heston, c'est pas bon. Ben, il s'est rappelé de Scheider et du coup, ça se fait comme
du
ça.
Coup, pour avoir un rôle dans les films de Steven Spielberg, il faut lui dire ouais, je kifferais trop jouer dedans.
Ben, apparemment, ça fonctionne.
Il faut juste avoir accès à lui. Quoi.
Okay,
c'est juste dans les mêmes réseaux. Ben,
si vous avez son numéro, vous me le filez. Quoi.
Ben, tu vois, ça marche. Et enfin, vers la fin du film, il y a un plan sur le bateau. Ah ouais, j'adore cette anecdote parce que j'ai revu la scène tout à l'heure. Vers la fin du film, il y a un plan sur le bateau de nuit durant lequel on peut apercevoir le chef de la police, Martin Brody, en train de recharger son revolver. Derrière lui, on peut apercevoir dans le ciel le passage très net d'une étoile filante. Oh. Et bien, cela n'a pas été ajouté en post-prod. C'est bien une réelle et une énorme étoile filante qui est passée par là au bon moment. Peut-être ce qui a porté chance au film.
Et puis c'est devenu un motif des films de Spielberg. T'as toujours, je me demande si c'est pas dans tous ses films où t'as un plan sur le ciel avec une étoile filante quasiment.
Fausse cette fois.
Fausse quoi?
Bah les suivantes.
Je pense que dans ce film il s'est dit wow! Et c'est devenu un truc genre il a voulu y rendre hommage dans plein de.
Non mais en plus
ce
qui est dingue c'est que c'est vers la fin du film, il doit rester genre 30 minutes. Regardez ce plan où il recharge le revolver. D'ailleurs je tiens à préciser que le film est dispo sur Netflix jusqu'au 22 avril, Les Dents de la Mer. Et il y a une sorte de liseré rouge magnifique derrière la traînée d'étoiles filantes. Cette scène, c'est incroyable d'avoir pu capter ça à ce moment là quoi. C'est fou. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Ouh. Première question pour toi, Joe, le dernier film que tu as vu au cinéma?
Dans une salle?
Exactement.
Eh ben, ça remonte parce que j'ai pas pu y aller pendant la réouverture du début de l'année, là. Donc, le dernier film que j'ai vu en salle, c'était Invisible Man de Lee Whannell.
T'as pas dit Tenet. J'entendais la Tenet.
Non, non.
Tout le monde dit Tenet ici.
J'ai pas vu Tenet.
T'as aimé Invisible Man?
Ouais, c'était une très bonne surprise. Ouais. C'était une très bonne surprise. J'ai trouvé que le dernier quart était un peu foiré. Mais tout le reste du film, j'ai trouvé que c'était étonnamment très très réussi.
L'actrice principale, je l'adorais dans Mad Men, mais là, je trouvais qu'elle cabotinait un petit peu.
Ah, moi, je trouvais qu'elle était pas mal.
Cabotinait, c'est quand on fait trop.
Moi, je l'ai trouvé pas mal. Mais surtout, j'ai été assez étonné de la réal, un peu Michael Mann, un peu. Enfin, tu sens qu'il y a des influences vraiment bien derrière et que c'est un petit film, tu vois. C'est un film assez modeste, mais j'aimerais.
Après, c'était un film avec une forte dimension sociétale au niveau de la métaphore, parce qu'il y a un truc sur les hommes qui battent les femmes, tout ça.
Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un film moins con que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé ça pas mal et c'était une bonne expérience en salle.
Et d'ailleurs, c'est intéressant finalement l'univers de l'homme invisible parce que c'est un thème qui a été repris plusieurs fois dans l'histoire du cinéma.
Ouais.
Et à bon escient à chaque fois parce que chaque film est différent, j'ai l'impression. Par exemple, celui de Verhoeven a vraiment sa patte. Il est un peu vicieux, il est un peu sadique.
Ouais.
Et celui avec Chevy Chase est drôle, enfin Carpenter. Et en fait, c'est vraiment une des franchises où les réalisateurs ont réussi à faire un film vraiment différent de l'un à l'autre.
Ouais, c'est vrai.
C'est assez cool.
Un peu comme Batman.
Tout à fait.
Non, mais c'est vrai en plus.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, mais oui, bien sûr.
C'est vrai, c'était pas une vanne.
C'est pas une vanne. C'était juste ça.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Eh ben écoute, c'était hier soir, avec beaucoup de retard, j'ai maté The Trial of the Chicago 7 de Sorkin. Bien, ouais. Écoute, j'ai trouvé ça, moi j'aime beaucoup Sorkin, hein, j'adore Newsroom, j'adore Social Network, c'est un de mes Fincher préférés, mais je trouve que c'est un bien meilleur dialoguiste et scénariste que Réal. Du coup, en fait, son Trial, j'ai trouvé ça hyper bien en termes de ce que ça raconte et de la manière dont les gens se racontent des trucs, mais je trouvais que ça manquait d'un Réal en fait derrière, quoi.
Ça manquait de panache.
Je trouvais ça un peu académique,
ouais.
Tu vois, mais c'était pas un mauvais film pour autant, hein. J'ai trouvé ça super, mais il y a des moments où je me suis dit putain, j'aimerais bien qu'il y ait une plus grande ampleur, quoi. Tu vois, tous les moments des riots, quand c'est vraiment bien, c'est parce que c'est des images d'archives, et dès que c'est pas des images d'archives, tu vois un peu le truc fabriqué, quoi, tu vois.
Moi j'ai bien aimé, mais c'est pas un film qui m'a marqué en mode je m'en rappellerai, tu vois.
Moi non plus, je pense pas.
La dernière série que tu as regardée?
Alors, il y en a une que j'ai terminée hier soir. J'ai regardé deux séries simultanément, et vraiment deux salles, deux ambiances. D'un côté, Parks and Recreation.
Ah bah tiens, Guillaume, je suis encore.
Ah bah moi, je suis sur la
au
saison
début
6.
De la saison 4 là.
Et bah c'est pas fantastique, sérieux.
Mais c'est vraiment Ron Swanson.
Bah non, mais c'est incroyable.
Ouais, mais c'est The Office ou Parks and Recreation?
Bah en fait, justement, j'ai fini The Office juste avant, et Parks and Recreation, je crois que je préfère. Okay. Parce que c'est beaucoup plus bienveillant, quoi. En fait,
ah oui,
en fait, Parks and Rec, j'ai envie d'être pote avec tout le monde. The Office, ils me font énormément rire, cas, mais j'ai pas très envie d'être pote
c'est
avec eux.
Une série où tu le mets, tu sais que tu passes un bon moment, quoi qu'il arrive.
Et donc, à côté de ça, j'ai terminé hier soir en thérapie, donc pas du tout le même délire. Mais j'ai trouvé ça fantastique.
Ouais, c'est bien.
J'ai trouvé ça vraiment super.
La dernière chanson que tu as écoutée?
Bah, en ce moment, j'écoute en boucle le nouvel album de Gojira, puisque je suis censé en pondre la chronique pour le magazine New Noise dans deux jours. Donc, tout le chemin là pour venir jusqu'au studio, j'ai écouté le nouveau Gojira.
Est-ce que tu as un titre en particulier?
Oui, Amazonia, je crois que c'est mon titre préféré de l'album, qui en plus est un titre engagé pour l'environnement et pour la sauvegarde de la forêt amazonienne qui crame pendant que les gens regardent et se disent « Oh, c'est pas grave, c'est juste des arbres ».
Le dernier livre que tu as lu?
Le dernier livre que j'ai lu, je suis un lecteur assez flemmard, donc ça remonte à cet été. J'ai lu un des rares Stephen King que j'avais jamais lu, qui est Salem, et que j'ai trouvé absolument incroyable. Je me demande si c'est pas le meilleur livre de vampire que j'ai lu de ma vie.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte quoi, Salem?
Salem, c'est l'histoire d'une petite bourgade américaine, comme on en trouve très souvent dans les films dans les livres. Putain, c'est tellement adapté au cinéma, si tu veux. Dans les livres de Stephen King, une petite bourgade de banlieue du Maine, où rien ne se passe. Sauf que du jour au lendemain, en fait, il y a une vieille maison tout en haut qui est très la maison de psychose, si tu veux, qui est achetée par un mec dont on sait pas grand chose et qui s'avère être une sorte de vampire hanté diluvien, qui petit à petit, au fil du livre, prend possession de la ville et transforme tout le monde en vampire, sauf quelques personnages qui vont évidemment s'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche et qui vont tenter de lutter contre son influence néfaste. Et c'est un gros pavé, et c'est tout ce que j'aime dans Stephen King, c'est-à-dire que t'as vraiment des scènes de terreur pure, et puis t'as de l'étude de personnages de la vie banlieusarde américaine.
Imaginez ce qu'il y a dans le cerveau de Stephen King.
C'est incroyable, en fait ces livres, et surtout celui-ci parce que c'est le plus récent dans ma mémoire, c'est vraiment des mondes en vase clos où tout est cohérent, où tout fonctionne, où en fait Salem, au bout de la moitié du livre, j'avais l'impression de connaître la carte de la ville par cœur, de savoir où habitait machin, machine, quelles étaient les relations entre les personnages, et en fait tout ça fait que quand la terreur tombe, ben ça marche d'autant plus que en fait t'as l'impression vraiment de faire partie des habitants de la ville presque, tu vois. Et vraiment j'ai trouvé ce livre incroyable. C'est dingo,
écoute,
hein,
c'est vrai qu'on a tendance à confondre les deux à chaque fois.
Il y a un film réalisé par Tobey Hooper qui était un téléfilm qui est sorti au cinéma en France mais aux États-Unis, qui avait été diffusé à la télé, qui est pas tant réussi que ça, mais qui a sauvé la carrière de Tobey Hooper.
Joe, la dernière BD que tu as lue?
La dernière BD que j'ai lue, c'est une adaptation de Lovecraft par un mangaka qui s'appelle Gutanabe, qui adapte tous les Lovecraft actuellement. C'est édité chez Kihun, je crois, dans des super belles éditions avec des pochettes en cuir, un petit peu vieux carnet de notes et tout. Et le tout dernier tome en date, c'est celui qui hantait les ténèbres. Et je crois que c'est un de mes préférés de la série. C'est vraiment super. Et Lovecraft, je trouve que c'est très 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 difficile à adapter, que ce soit en film ou en bande dessinée, parce que c'est un peu la peur de l'indicible, et c'est justement tout toute la peur de Lovecraft, elle repose sur des créatures que tu peux quasiment pas décrire tellement elles sont et lui justement arrive à contourner ce problème-là et à créer des adaptations vraiment, je trouve, qui ont leur propre personnalité. Donc je recommande à tout le monde, je trouve ça super.
Alors tu nous as teasé un peu en off parce que t'as ramené un gros sac avec toi.
Ah ouais.
Le dernier objet culturel que tu as acheté.
Mec, très gros hasard. Mais j'attendais une précommande qui est tombée aujourd'hui. Je suis allé la récupérer juste avant de venir.
Wow.
Et c'est le requin, c'est le Land Shark.
Ah, mais c'est
de Skeletor.
Ah ouais, putain. Alors, est-ce que tu peux nous, comme c'est un podcast, est-ce que tu peux nous décrire ce que t'as dans la main?
Alors, en fait, c'est donc la boîte, j'ai même pas encore ouverte. Hein, c'est The Land Shark. C'est un véhicule des maîtres de l'univers, un véhicule du méchant Skeletor, qui est en fait une gigantesque tête de requin. Mais avec derrière des roues et des pistolets laser, puisque bien entendu on est dans les maîtres de l'univers, donc ça n'a rien de réaliste. Et c'était un de mes jouets préférés quand j'étais petit. Allez savoir pourquoi.
Et donc
si vous avez écouté
ça. Il a été réédité, c'est ça ?
Ouais, en fait il y a une nouvelle gamme qui s'appelle Masters of the Universe Origins, qui est très très fidèle aux versions d'origine, sauf qu'il y a plus d'articulations et tout, mais c'est vraiment les mêmes designs de personnages.
Là j'ai la boîte entre les mains, le packaging et les boîtes des Masters of the Universe, ça faisait vraiment envie,
mec,
quoi.
Elles sont magnifiques. Bah, vu qu'il y avait, ça faisait partie du truc qui t'aidait à te raconter les histoires, quoi. Parce que, étant donné que soit le dessin animé, tu le regardais pas, soit de toute façon, ça, c'était pas dans le dessin animé, si tu veux. Donc en fait, il fallait qu'il y ait des illustrations pour que tu puisses te projeter et tout.
Tu vas le laisser sous blister ou tu vas le prendre en photo?
Non, mais je vais garder la boîte. Je vais clairement garder la boîte parce que tu peux l'ouvrir correctement. Okay. Tu sais, c'est pas un blister que t'as besoin de déchirer.
Et donc, t'as prévu d'en faire une photo?
Probablement, ouais.
Ce qui fait que tu nous donnes en exclu la prochaine photo de French Toy.
Alors, je sais pas si ce sera la prochaine, mais elle sera dans au moins courant avril, ça sera pris en photo, ça.
Cool.
Pas
mal. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un lien, c'est marrant, il y avait un lien avec aujourd'hui, du coup,
avec
le requin.
Mais c'est vraiment, je m'en suis aperçu en allant chercher que tout tombait très très bien, quoi.
Et enfin, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta ou Twitter?
Alors, c'est une, je vais te retrouver ça tout de suite parce qu'elle a un nom à coucher dehors. C'est une photographe un petit peu dans la darkness. Parce que moi, je suis très dans la darkness, tu sais. Hein, j'aime bien tout ce qui est gothique, tout ça. Et il y a une photographe, qui s'appelle Nona Limen. Voilà, c'est ça. Nonalimen en un seul quand même 240 000 abonnés, hein, ce qui est pas mal, et qui fait des photos. Elle a fait des pochettes d'albums par exemple pour des artistes comme Chelsea Wolfe ou Emma Trundle. C'est des photos très un petit peu cauchemardesques avec tu vois des châteaux de vampires dans les nuages. C'est des trucs très du domaine du fantastique, un petit peu de l'horreur aussi.
Bah tu sais, j'ai fait de la photo de 2010 à 2015, ouais. Et de tout ce que j'ai fait, ma photo préférée, c'est mon portrait de Chelsea Wolf, justement,
ouais.
Qui est une artiste, voilà, un peu gothique,
ouais, folk goth un peu, quoi.
Et durant la photo, elle avait les yeux révulsés, blancs.
Oh là là.
Et du coup, c'était fait une petite ambiance comme ça. Du coup, la photo était encore mieux, quoi.
Bah ça, tu vois, c'est la pochette qu'elle a faite pour l'album de Chelsea Wolfe.
Cool.
Et voilà, c'est une artiste que j'aime énormément et qui inspire beaucoup. Pas forcément, ça se voit pas forcément quand tu regardes mes photos et les siennes, mais ça fait partie des trucs dont je me nourris moi pour faire mes photos à moi.
Est-ce que t'as attiré un peu l'attention de Neka avec tes photos? Neka, pour préciser ceux qui savent pas, c'est une, tu peux nous expliquer.
Ouais, une marque de jouets, ouais. qui c'est une des marques de jouets les plus cool de ces dernières années, qui ont marqué un très très gros coup il y a 3 ans maintenant, je crois, en commençant une gamme des Tortues Ninja du film.
Ils ont l'habitude de mettre en scène leurs jouets en photo.
Ouais, ils ont l'habitude de mettre alors le problème c'est que non j'ai pas attiré l'attention de Neka. Si ils ont déjà reposté certaines de mes photos, mais pas au point de collaborer, parce qu'en fait ils ont pas de bureau en France, ils ont pas de, en fait, ni en Europe d'ailleurs. C'est vraiment une marque purement américaine qui fait tout là-bas, donc ils ont sur place toutes les personnes.
Et là, si on disait de tout lâcher pour devenir le photographe numéro 1 de leurs jouets, tu le ferais ou pas?
Bien sûr, mais c'est vrai. Ouais. En fait, moi, mon rêve, ce serait de vivre de ça. Hein. Ouais. Je serais hyper content de pouvoir faire ça. Mais avec Neka, en tout cas, il y a peu de chances que ça arrive. Après, là, je suis sur des trucs intéressants avec Hasbro.
Cool.
Je fais des figurines Star Wars, Power Rangers et Marvel Legends.
Et aussi, t'avais fait des photos pour ma boutique préférée à Paris, qui est Album.
Ouais.
Et t'avais fait la façade de leur boutique, c'était cool.
Mais
ça.
Toujours, ouais, c'est en fait c'est devenu la façade permanente. À part quand il y a des OP et que parfois tu sais ils mettent des façades. Mais ouais, ils m'ont contacté pour que je leur fasse une petite demi-douzaine de photos pour habiller leur boutique.
Tu t'avais pas un projet de livre aussi autour de ça?
Si, c'est toujours, tu sais, c'est les projets. Non, mais c'est j'aimerais vraiment effectivement faire un beau livre sur la photo de jouet. J'ai déjà eu des discussions avec des éditeurs et tout, mais je pense qu'il faut du du temps. Et je pense que pour que les éditeurs vraiment acceptent de rentrer dans le truc, il faut vraiment que je prenne le temps de créer un truc en financement participatif, un Kickstarter, ouais, un truc comme ça.
Il y a eu quand même cette période qu'on connaît qui a tout ralenti.
Ouais, voilà, tout. Tu vois, tout est un peu, okay, tout est un peu plus compliqué, quoi.
C'est donc la fin de ce podcast. Joe, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ? Alors là, on a parlé d'un potentiel livre, peut-être, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actu pour toi là ?
Moi, c'est toujours assez simple. Hein. Tous les jours sur MCM, dans une émission qui s'appelle Pop Life, qui est une émission qui dure 3 à 5 minutes, où tous les jours, on parle de pop culture. Étant donné que depuis un an, normalement, c'est censé être une émission un peu actu, mais... Mais que l'actu, comment te dire que bon bah c'est un petit peu difficile. Donc on mélange un petit peu tout type de sujets ayant attrait à la pop culture, tout en partant un petit peu aussi dans le rétro. Mais voilà, donc ça c'est tous les jours sur MCM, sur Facebook, sur Twitter et sur la chaîne. Et puis à côté de ça, j'écris un peu pour de la presse papier. Comme,
oui, parce que du coup vous présentez quand même un point commun avec tous les deux, Aurélien et Joe, c'est que vous écrivez dans Rokirama.
Oui.
Absolument.
Ouais,
absolument.
Ah, beaucoup moins, moi, quand même.
Mais moi, j'écris plus beaucoup dans Rokirama, faute de temps, mais je suis assez fier de faire partie de la team du début. En
Rokirama
tout cas.
Top Pop News.
Tout à fait.
L'émission
Rokirama Top Pop News. Nous avons un point commun avec monsieur Brouze ici
et
présent.
Oui, un point commun avec JB qui a enregistré dans le même studio.
Et moi aussi. On a tous des points communs.
Bah oui, tout le monde.
Je tiens à dire que la personne qui enregistre cette émission, Tim, connaît Joe, donc beaucoup de points communs.
Ancien de Radio IFM à laquelle on a bossé pendant des années ensemble. Et donc, ouais, est-ce que j'ai un Rokirama qui arrive ? Je sais pas, moi. Je sais plus si j'ai un article dans un des prochains.
C'est lequel le dernier ?
Mais en tout cas, je peux vous dire en exclu qu'il est fort probable, si je me foire pas complètement, que la couve d'un des tout prochains Rokirama soit une photo
Ça
fait deux ans que je tanne Johan, le rédac chef, en lui disant « Mec, laisse-moi faire une couve de photo de jouets !» Et à chaque fois, il me dit « Ouais, mais tu sais, Joe, si vous le connaissez, vous savez qu'il a cette voix. Tu sais, il faudrait trouver le sujet vraiment adapté. » Et là, je crois que ça y est, peut-être. Alors, ça donne un indice, mais je peux pas en révéler plus. Mais il est possible que ça parte là-dessus. Ouais.
Et aussi, parmi tes projets et ton actu, t'animes aussi une émission de jeux de société sur YouTube.
Ah oui, mais oui, tu fais bien d'en parler. Je manque à tout, mais oui, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bon Nerd, qui propose plusieurs programmes, dont un actual play de jeux de rôle qui s'appelle La Bonne Auberge, animé par Lucien Maine. Et puis moi, je présente une émission qui s'appelle La Bonne Pioche, qui est une émission où on joue à des jeux de société.
Et on avait joué à Planet Hollywood ensemble.
On avait joué à Planet Hollywood à trois, s'est avérée être un échec technique. Et donc, tu as eu l'amabilité de revenir, JB.
Il a pété les plombs, il était hors de lui.
Oui, en fait, si on veut raconter la vraie histoire, on a joué à 3, j'ai gagné, JB était pas content, ils ont voulu le refaire qu'à 2.
Non, attends.
Pour pas s'afficher, ça lui donnait une mauvaise image, etc. Parce qu'il est censé être spécialiste ciné.
T'avais gagné en vrai, je m'en rappelle plus.
J'avais gagné, ouais.
Sur un kit tout double.
Je t'avais défoncé, en fait, tout simplement.
Non, t'avais gagné sur un kit tout double de chat.
Je me rappelle pas du tout. Encore une fois.
J'ai
aucun souvenir.
Ok, d'accord. Non, en plus, je crois que c'était Joe qui avait gagné en plus.
Je sais plus, mais quand t'es venu, c'est toi qui as gagné.
Non, c'est toi qui as gagné. Ah si, j'ai gagné, mais t'avais été bon.
Quand on l'a...
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait été meilleur que moi et ça s'est joué sur un kit tout double, c'est ça que je veux dire en fait.
Quand on a joué à deux.
Rendons à César.
Je crois pas. Quand on a joué à deux, je crois que t'avais gagné assez largement.
Allez, je t'ai défoncé.
Quand c'est avec Joe, c'est quand ça joue sur un kit tout double, il fait ouais, non, mais ça s'est joué sur un kit tout double, je regrette et tout. Quand c'est contre moi, il s'en bat les couilles. Il a ouais, kit tout double, je m'en bats les couilles, tu vois. Merci.
Ouais, mais avec Guillaume, c'est tendu avec Guillaume à chaque fois.
Donc ouais, abonnez-vous au Bon Nerd. Il y a plein de programmes très très cool. Et puis il est pas impossible qu'il y ait une émission sur les jouets à la rentrée sur cette
tour.
Mais que d'exclus.
Ouais, beaucoup d'exclus, il se passe des trucs.
Beaucoup d'actu finalement.
Voilà. On essaye.
C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Les Dents de la Mer. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinema. Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde.
Ciao.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.